Corps.
Tiens.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième épisode consacré à la rétrospective, à l'intégrale. Danny Boyle, je suis toujours en compagnie d'Aurélien et Alain. Comment ça va, Aurélien ?
Très bien, merci François. Et toi ?
Je suis là pour la bagarre. Je vais dire les choses directement dès le départ. Je suis là pour me battre. On était trop dans une absence de Discord la dernière fois. Ça m'a énervé. Ça m'a mis chonchon. Donc là, je suis là pour la bagarre, vraiment. Okay, Cyril Despontin. Cyril, qu'en es-tu ?
Bah, moi, je suis là pour l'apaisement. Je suis là pour que ça se passe bien. Quoi. Et... De toute façon, on est deux, t'es tout seul, donc on va te casser ta petite gueule. Donc ça va être vite vu. Et bonjour François, bonjour Aurélien.
J'allais dire juge de paix, mais pas vraiment. Très bien. Non, on s'était quitté en fait sur un plébiscite, sur une entente absolue autour de 28 jours plus tard, avec un vague débat sur la séquelle, mais qui n'a même pas fait deux secondes. J'ai fermé ma grande gueule, effectivement, comme tu le disais, Cyril. Là, on va démarrer sur mise en jambe sur une toute petite chose, une anomalie dans la carrière de Danny Boyle, une anomalie. Déjà, je commence avec
des termes. Ça commence bien cette soirée.
Bah, après, il y a un cousinage de film, c'est Millions. Du coup, c'est un scénario original de Frank Cottrell Boyce, dont on avait précédemment croisé la route en fait sur Discordia à l'occasion de la rétrospective consacrée à Michael Winterbottom. Et il a écrit Tristram Shandy pour Michael Winterbottom, qui est super, et il a écrit Code 46 pour Michael Winterbottom, qui est une expérience en soi, dont on avait dit beaucoup de mal. Et voilà, Anouk n'était pas la dernière pour exprimer des trucs et des machins. Et Millions, ça rapproche un petit peu Danny Boyle, à mes yeux, en tout cas d'un Michael Winterbottom, de quelqu'un qui va être très curieux et qui va tester beaucoup de choses dans tous les sens, mais vraiment tous azimuts, avec peut-être plus de personnalité au niveau esthétique et même au niveau discours. Millions, objet très bizarre, hein. Objet très 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 bizarre, comédie dramatique familiale, sur fond de misère sociale. On est sur une famille qui vient d'accuser le coup de la mort de la mère, avec deux gamins débrouillards qui arrivent plus ou moins à gérer l'expérience. Le père, James Nesbitt, grand acteur anglais fabuleux, qu'on a vu chez Michael Winterbottom aussi, décidément il y a beaucoup de cousinage, mais ça va s'arrêter là, heureusement. Voilà, et en fait, les deux gamins trouve un sac de livres qui est destiné à être bientôt détruit parce qu'on est dans une Angleterre fictive qui va passer à l'euro, et ils doivent dépenser une certaine somme en un temps restreint. C'est là que ça devient très très singulier, parce que le plus jeune des gamins, c'est une espèce de petit génie qui a des visions de saints, de martyrs, de saints, on précisera ça tout à l'heure, qui va connaître tout un périple justement pour faire le bien autour de lui, qui a des principes moraux guidés en partie par la religion, mais qui sont très fermes, très strict, et à partir de là, ça va dans tous les sens, ça devient peu ou prou n'importe quoi. Il y a des gangsters qui arrivent, il y a James Nesbitt qui fait des grands yeux de chien battu et comment résister, et j'ai pas compris ce qui se passait. Très honnêtement, je n'ai pas compris. Est-ce que quelqu'un veut bien m'expliquer Millions?
Je peux essayer. Le truc, c'est que, en fait, déjà, c'est une sorte pour moi de contrepoint enfantin de petit meurtre entre amis. C'est-à-dire que c'est à peu près le même point de départ. C'est-à-dire que quelqu'un trouve de l'argent, qu'est-ce qu'il en fait et qu'est-ce que ça fait sur sa psyché et sur qui il est. Et qu'est-ce que ça révèle de lui. Et ce que ça révèle de ce gamin, c'est qu'en fait, ce gamin, effectivement, il est pur de cœur. Et en fait, moi, évidemment, Millions, c'est pour dire de manière un peu vulgaire, c'est tout pété comme film, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il se passe des choses, parfois tu dis, bon, ça n'a aucun sens. Visuellement, c'est à mi-chemin entre... c'est une sorte de... Une fois, j'avais écrit que c'était une sorte de version très colorée de Paper House, de Bernard Rose. Il y a un peu de ça, tu vois, c'est le côté vraiment... C'est des décors en carton-pâte, et tu le sais, dans une Angleterre qui n'existe pas. Pas ou plus, parce qu'en fait, Danny Boyle, c'est vraiment quelqu'un qui n'est absolument pas du tout dans le socio-réalisme, jamais, même si il n'a rien contre le socio-réalisme, en tant que spectateur et en tant que cinéphile, mais en tant que cinéaste, jamais de la vie, il fera un film socio-réaliste, c'est pas du tout sa fibre, et donc effectivement, quand il parle d'une famille en deuil et d'un gamin qui trouve de l'argent, il n'est pas du tout dans une chronique lodgienne du tout. Et c'est vrai que ça lui ressemble, parce que comme tu disais, c'est quelqu'un qui aime tester des trucs. Ça déborde un peu dans tous les sens, on est d'accord, Mais moi, j'ai quand même une assez grande tendresse pour ce film-là. Je laisse à Cyril dire aussi ce qu'il en pense, et on pourra creuser. Mais moi, j'ai plutôt une tendresse pour ce film, même si effectivement, on peut pas décemment dire que c'est un grand Danny Boyle, on est d'accord.
Cyril.
Alors, justement, moi, j'attendais beaucoup ce film. Forcément fan de Danny Boyle comme je suis, donc je suis allé le voir. Je me suis dit que la bande-annonce m'avait beaucoup hypé, mais ce sera souvent le cas d'ailleurs des films de Danny Boyle. Les bandes-annonces sont souvent très très bien, parce que je sais pas si vous souvenez, la bande-annonce du film, elle était faite de plein des meilleurs moments du film, des plans un peu foufou, un peu visuellement un peu chiadé, quoi. Donc je me suis dit, tiens, ça va être un film complètement dingo. Et effectivement, en sortant de la séance, je vais pondérer après, mais j'étais quand même assez déçu, parce que c'est un peu neuneux quand même, c'est pas vraiment intéressant. Et tout le délire bondieuserie m'avait un peu saoulé.
C'est ce que j'allais te demander, toi qui n'es pas fan du tout de ce genre de truc.
Non, ça m'avait vraiment saoulé. Mais là, j'ai revu vite fait tout à l'heure le film pour l'avoir un peu plus en tête et tout. Et je sais pourquoi j'aime quand même ce film. Je pourrais le défendre, comme tu dis souvent, François, en haut de cette colline. Il faut savoir qu'à l'époque, moi j'étais un hardcore fan de Michel Gondry. J'étais le webmaster de son site officiel et tout. Et en fait, j'ai revu le film. Il y a plein de trucs à la Gondry, justement, dans le film, ce qui, je pense, peut irriter les gens. Et je pense que ça t'a irrité, François. Mais tous les plans d'accélérer, de construction de la maison, les plans dans la cabane, il y a plein d'effets visuels d'accélérer, c'est très cartoonesque, qui font que bah, j'aime beaucoup ce film. Je pourrais le sauver là-dessus. Je ne serais pas sur le fond, parce que finalement, c'est une sorte de version de Shallow Grave ou de Trainspotting avec des gosses un peu bêtes. Le coût de l'argent qui va changer. Enfin, bref, ça fait beaucoup penser à ces films-là. Mais cet aspect visuel très cartoonesque qu'il avait un peu fleuri, il y avait 2-3 plans comme ça dans Trainspotting, des plans un peu visuellement shadés et tout. Là, c'est beaucoup beaucoup de plans comme ça, un peu à la Gondry, les plans dans le carton, justement. Enfin, il y a plein de trucs comme ça que j'aime beaucoup. Mais voilà. Et puis pareil, encore une très belle BO, ce morceau de fin là, Nirvana par El Bosco, que j'adore, avec des chœurs d'enfants qui chantent et tout. Voilà, donc des beaucoup de qualités, mais c'est fait partie pour moi des vraiment des plus faibles. C'est pas un film que je déteste comme d'autres qu'on va parler plus tard, mais il fait partie du bas du panier de Boyle, mais parce que voilà, il est à la fois et tout. Et je me suis rendu compte en cherchant une source, c'est qu'il n'y a pas de Blu-ray de ce film. Il y a une version DVD uniquement. C'était Pathé à l'époque qui avait distribué le film. Je me demande si ce n'est pas producteur. Voilà, donc il n'y a pas moyen de rendre le voir à part le DVD français.
Même en Angleterre d'ailleurs, il est sorti qu'en DVD là-bas. Et il y a une époque en France où il était disponible en VOD uniquement en VF. C'est-à-dire, ouais, c'était vraiment pas l'idéal pour le voir, ce petit film. Ouais. Mais moi, je comprends la version qu'on peut avoir pour Millions. Le truc, c'est que, en fait, c'est toujours pareil quand on. Je crois que quand on aime un cinéaste. En tout cas, moi, mon travail de critique, je le vois pas uniquement dans le sens dire c'est bien ou c'est pas bien. Effectivement, c'est un film qui, en toute honnêteté, a plein de faiblesses. Et même moi, quand je le vois, parfois, je suis gêné par certaines scènes. Mais en fait, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est quand on aime un cinéaste, c'est essayer de voir ce qu'un film a quand même de rattrapable. Et je trouve qu'il y a plein de petites choses dans ce film. Déjà, parce que je trouve que c'est un film assez humble. Après le carton de 28 jours plus tard, qui était une espèce de vraiment de raz-de-marée, où d'un coup qui a relancé le film de zombies, qui a relancé un esprit qui était un truc ultra punk, en DV, ultra, enfin tu vois, vraiment âpre, d'un coup Danny Boyle il dit bah tiens, si je faisais un conte pour enfants. Et en fait, ça, je trouve ça assez touchant. Moi, je trouve un cinéaste qui est capable de tout au tout de changer de braquet d'un film à l'autre, en se disant, bah, tu sais quoi, j'ai eu un énorme succès avec ça, bah, je vais faire complètement l'inverse parce que ça m'emmerde de m'encrouter. Déjà, moi, je trouve ça sympathique. Déjà, j'ai beaucoup de respect pour ça. Après, effectivement, le film est bancal, mais entre les jolis thèmes de John Murphy, comme tu disais, les petits effets, les effets spéciaux, un peu à la Gondry, ce côté extrêmement naïf à une époque où, voilà, où globalement, bah, on ne supporte plus trop ça, le sentiment, la grande candeur, tout ça. Moi, je trouve ça, enfin, ça me touche. Même si, effectivement, je vois les défauts, parce que les défauts, ils sont vraiment très visibles, quand même, ça me touche, parce que j'y vois quand même Danny Boyle. Toutes les bondieuseries, en fait, ça se rapproche un peu à lui, parce qu'il a failli faire le séminaire quand il était jeune. Il a eu une éducation assez religieuse, il a failli faire le séminaire, donc il met aussi un peu de lui là-dedans. Et moi, je trouve ça, voilà, je trouve ça assez touchant. Je peux pas nier.
C'est marrant, parce que le côté bondieuserie, on l'a jamais vu avant dans sa filmo.
Non.
Et on le verra jamais après, en fait.
Non.
C'est vraiment le seul film qui est comme ça. Je me suis demandé, c'est un bouquin à la base ou c'est un scénario original
Logiquement, il me semble que c'est un scénario original, alors que Frank Cottrell-Boyce est écrivain.
D'accord.
Ouais. Mais c'est vrai que je trouve que visuellement, il y a quand même un truc dans la photo de Dodd Mantel qui est quand même ultra shiny et qui dénote avec l'époque. Quand tu vois ce qu'ils ont fait juste avant dans 28 jours et dans les deux téléfilms dont on avait parlé, d'un coup, tu te dis, ah ouais, c'est quand même, les mecs, ils ont pas peur de vraiment changer complètement de vision, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment respectable. Et j'aime bien ça. Moi, j'ai toujours aimé ça chez Danny Boyle. C'est-à-dire qu'en fait, il change complètement de choses. Il teste des choses et je trouve ça, même, voilà, parfois il se plante. Bah, il se plante. C'est pas bien grave. Il y a quand même des choses qui m'intéressent dans ce film-là. Ne serait-ce que pour ce que ça raconte de lui en tant qu'artiste, déjà.
Et je me demande si c'est pas son dernier film tourné en peluche, parce que je sais pas si Sunshine. C'est Sunshine après. Hein,
ouais, après c'est Sunshine, ouais.
Et je ne sais pas si Sunshine c'est déjà du numérique ou pas. Là, je vais peut-être dire une grosse connerie.
Ah, je suis pas sûr, j'ai comme un doute.
Parce que 127 heures, c'est sûr que c'est du numérique, il n'y a pas de doute. Ouais. Mais tout à l'heure, en voyant le film, je me suis dit, quand même, la photo elle est jolie, qu'il y a le grain 35, il y a un soin apporté à la photo et tout. Et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas son dernier opus pendant que je vais regarder sur IMDb, c'est notre ami.
Alors, c'est effectivement tourné en péloche, Millions, ça c'est sûr. C'est du 35.
C'est pour Sunshine, c'est plus pour Sunshine, savoir si c'est du coup Sunshine est le dernier qu'il ait fait. Celui-là c'est le dernier qu'il ait fait en. Je vous laisse combler.
Et donc, François, ouais. Qu'est-ce que tu penses de Millions, toi? Enfin, on a compris que t'étais pas.
Je l'ai découvert pour l'occasion, je l'avais pas vu. Et comme vous m'aviez un petit peu préparé le terrain en disant oui, même les plus mineurs comme Minions, même ceux pas ouf comme Minions, tu vois, dernière fois, j'avais pas beaucoup d'attentes. J'ai vu le truc démarrer et je me suis dit bon. C'est tout public, ça va dans tous les sens. Il y a des délires clipesques, je dis pas ça de façon péjorative, mais c'est vraiment du clip, quoi. C'est tout d'un coup, il y a une stase dans le récit et on fait un petit truc formel sympa. Moi, à la limite, tu vois, ça vieillit. Ces trucs-là, il y a pas mal de trucs qui ont vieilli, mais c'est pas grave, c'est charmant. Et ça va tout à fait dans le ton du film. Mais. Moi, c'est le scénar de Frank Cottrell-Boyce, en fait, qui n'a aucun sens. Bah, tout d'un coup, il y a ces moments que Danny Boyle aime beaucoup. Vous savez, ces montages assez rapides, de trucs un peu marrants, d'actions répétées, des plus ou moins déclinées sur le même thème. Et il prend plaisir à le faire, hein, quand ils amènent les gamins en disant « Ah bah tiens, regarde, c'est un secret. Ah bah tiens, regarde, c'est un secret, faut en parler à personne. » Et voilà, ce genre de trucs, quand ils vont à Pizza Hut, bon, placement produit, c'est pas grave. Mais pour moi, vraiment, le script n'a aucun sens. Il va comme un cheval sans tête. Et c'est plus ça, en fait. Et le côté qui, bondieuserie, le fait qu'il parle à dessin, qu'il voit des apparitions, avec qui il a des dialogues, c'est un truc, à la limite, qui est typiquement anglais, moi, qui me dérange pas, qu'on a même vu, il y a pas longtemps, dans The Lost King de Stephen Frears. Et c'est cool. Moi, j'adore ça. Quand les Anglais conversent de façon un petit peu désacralisée, sans mauvais jeu de mots, avec leur histoire directement, avec des dialogues plus ou moins bien écrits, etc. Là, j'ai pas vu où ça allait et je trouvais que ça manquait de substance, en fait.
Pour moi, c'est un sociopathe, le gamin. C'est les killers dans un prochain film, tu vois. Il est fou, cet enfant.
Non, mais en fait, il est un peu fou parce qu'effectivement, en fait, c'est vraiment le protagoniste bolien de base. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend la main sur le récit. Et ça, c'est vraiment, on en parlait sur la plage. C'est vraiment chez Danny Boyle, le protagoniste, il est vraiment extrêmement fort. C'est lui qui raconte l'histoire. Et c'est vrai que forcément, voir un gamin prendre la main sur un récit de cette manière-là, c'est vrai qu'il fait un peu psychopathe sur les bords.
Bah, très moralisateur en plus, tu vois. C'est ça qui déconcerte par rapport au truc de Danny Boyle d'habitude, quoi.
Oui, c'est vrai. Après, j'aime bien dans le film le fait que le point de vue reste sur le gamin. C'est-à-dire que c'est assez rare finalement les films où le point de vue reste sur les enfants et qu'il n'y ait pas de contrepoint adulte. Et c'est vrai que là, c'est peut-être pour ça aussi que tout est un peu décalé. C'est parce qu'en fait, il y a le regard du gosse qui fait que. Et eh ben effectivement, les bandits sont très très méchants, et puis le colza il est très très jaune, et puis les maisons en carton elles sont en très très carton, tu vois ce que je veux dire. Il y a un côté vraiment, c'est l'enfant qui sublime un peu tout.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est après, je peux pas dire que ça fonctionne constamment, et enfin ça serait un peu foutage de gueule de ma part, mais quand même il y a de l'intention dans ce film. C'est pas un film qui est fait par-dessus la jambe, c'est-à-dire qu'il y a une intention, et parfois ça dérape juste parce qu'il y a peut-être trop d'intention.
Ouais. Pour situer, moi je me souviens quand je l'ai vu en salle, le même jour je me suis fait, juste après, Batman Begins, c'est pour ça plus dans quelle époque c'est sorti, voilà.
Oui, bien sûr.
C'est vraiment deux salles, deux ambiances.
Ah bah oui, c'est pas gritty, hein. Millions c'est pas du tout gritty, quoi. Enfin, tu vois, il y a pas le.
Et on était genre trois dans la salle quand je l'ai vu, c'était à Lyon, une petite salle et tout, on était vraiment pas beaucoup pour Millions, tout le monde s'en battait les steaks de ce film. D'ailleurs, il n'existe pas dans. Enfin, tout le monde a oublié ce machin. Quoi. Oui. Après, François qui voit beaucoup de films l'avait pas vu, tu vois.
Ouais. Et ce qui est intéressant sur Millions, c'est que Danny Boyle disait qu'il avait eu le projet d'en faire une comédie musicale à la base.
Ouais.
Alors l'idée pas allée très loin parce que quand j'en avais parlé à John Murphy, il me disait moi j'ai pas ce souvenir là, donc je pense que c'est un truc que Danny Boyle n'a même pas développé en tant que tel, mais il avait pensé à en faire une comédie musicale et peut-être que aussi ce côté un peu tout pété, ça se retrouve dans cette intention là. C'est-à-dire que c'est vrai que la comédie musicale c'est quand même un genre de l'outrance un peu et de vraiment cette déconnexion entre le réel et la fiction, et c'est peut-être un résidu de ça, c'est peut-être dans cette intention là, je sais pas.
On passe au film suivant.
Bon. Mmh. Là, on peut y passer une heure. Ça.
C'est possible, c'est possible. le film suivant, c'est Sunshine, on arrive en 2007. Énorme choc cinématographique à l'époque. Je m'en rappelle, j'avais été estomaqué. La science-fiction, très honnêtement, c'est un de mes genres préférés, je pense. C'est le genre qui me transporte le plus. Et Sunshine, c'était un idéal de science-fiction sur deux plans qui, moi, me satisfont énormément. Visuellement, c'est une tuerie. Et en termes de développement d'univers, c'est plein d'idées très maligne, où il faut mettre sa suspension d'incrédulité au placard et l'envoyer sur Mars. Mais c'est pas grave, parce que ça tient, parce que c'est très bien expliqué, on te pose les choses de façon très très concrète, et en plus on te développe des choses sur ces bases qui sont déjà fascinantes, et on te les tord de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et c'est fabuleux. Donc pour... j'ai relevé, Cyril, pour le premier épisode, tu m'as dit 4 fois, alors on va dire l'histoire, parce que tu ne l'as pas fait, et là je vais essayer de raconter l'histoire. Le soleil est en train de s'éteindre, tout simplement. Il y a eu une première mission qui a été envoyée pour essayer de le rallumer, de lui envoyer un choc nucléaire dans la gueule. Icarus One, tout à fait. Et là, on suit Icarus Two, qui est vraiment la dernière chance de la Terre.
Ouais, parce qu'en fait, il y avait besoin d'éléments fossiles sur Terre et ils en avaient trouvé tout ce qu'ils pouvaient pour la 1. Ça n'a pas marché, comme tu dis. Et du coup, pour la 2, voilà, il n'y a vraiment plus rien. Si la 2 ne fonctionne pas, il n'y aura plus d'équivalent de matière fossile sur Terre pour pouvoir faire cette nouvelle bombe, en fait. C'est pour ça que c'est le dernier espoir.
Voilà. Donc là, c'est chaud et il y a des problèmes. Ça tourne mal. Voilà.
C'est bizarre pour un film dans l'espace, dans un réduit, un spécial. C'est vraiment très étrange.
Compliqué.
Ça ne se passe pas comme prévu.
Et ah ouais. Icarus 2 tombe sur Icarus 1, et les choses se compliquent, et c'est fabuleux, et c'est absolument fabuleux. Moi j'en avais le souvenir, je l'ai vu que quelques fois, et ça faisait une bonne dizaine d'années que je l'avais pas vu, et dans le souvenir que j'avais, c'était fin, tripé, psyché, Danny Boyle sous champi, et avec un mélange de Snasher complètement sous psychotrope, mais pas tant que ça, ça se tient en fait. Peut-être que... Parce qu'on a vu d'autres qu'Alex Garland qui vont beaucoup plus loin dans le délire du dernier acte, mais là ça va, ça se...
En fait, ça surprend, ce passage-là, comme tu dis, slasher, surprend parce que c'est pas ce que tu t'attends à voir avant le début du film, et ça prend, même si ça prend pas toute la part du film, ça prend quand même un bon moment, mais c'est pas grave, tant qu'on a livré ce qu'on dit, toi, c'est pas gênant. Je sais pas si tu avais fini,
vas-y, du coup,
ce
que je t'en prie.
Alors, je pense que ça va être pareil pour Aurélien, mais moi, c'est un film extrêmement important pour moi. C'est que les gens vont peut-être trouver que je suis fou, mais c'est un de mes 10 films préférés ever de tous les temps. C'est, je voue un culte à ce film. À l'époque, quand je l'ai vu en salle, j'ai tellement fissuré du cerveau que je me suis dit, le voir dans ces conditions, dans une salle de cinéma, ça m'arrivera pas tout le temps. Et j'ai été le voir 4 fois en une semaine. C'est que vraiment, ce film m'a vraiment touché quelque chose dans mon cortex. Je sais pas comment l'expliquer. On va sûrement parler de la musique, mais c'est la symbiose de deux grands talents, c'est-à-dire John Murphy qui suit donc Danny Boyle depuis 28 jours plus tard, enfin même les deux films qu'il a fait avant, les téléfilms, et Underworld qui, pareil, suit en pointillé comment s'appelle Danny Boyle depuis un petit moment. Et en fait, ils ont bossé ensemble sur la BO. Et ça peut paraître anodin que je parle de la BO parce que je parle souvent des BO de Danny Boyle, mais là vraiment, vous l'avez entendu 1000 fois, les morceaux de cette BO, vous avez dû l'entendre 1000 fois dans des pubs, machin, tout, parce qu'elle est juste démente et on a des images complètement folle de l'espace, du soleil et tout. Il y a des séquences assez émouvantes, assez poignantes, et cette musique, elle est indissociable de la réussite du film. C'est qu'elle vous prend aux tripes, elle vous fout des frissons, il y a les poils qui se dressent. Vraiment, c'est dingue. Le casting aussi, 4 étoiles, il y a Michelle Yeoh, donc, qui maintenant ça semble évident, mais à l'époque, elle n'avait pas une trace du désert à l'époque. Elle avait fait 2-3 tentatives américaines, dont un James Bond, mais on faisait plus trop appel à elle, et Danny Boyle l'a contactée. Il y a Rose Byrne que j'adore, il y a Chris Evans, il y a Cillian Murphy, forcément toujours magnifique. Il y a, merde, j'ai oublié son nom, Kaneda, cet acteur japonais qu'on a vu dans Sunkokai.
Mais bien sûr, oui. Attends, bouge pas.
Et là, les gens qui sont chez eux, ils font « Mais si, c'est machin et tout
ben, !» Hiroyuki Sanada.
Sanada.
Voilà, il y a un casting. Et d'ailleurs, c'est marrant, à l'époque, ils avaient expliqué, parce qu'il y a beaucoup d'Asiatiques dans l'équipage, en fait, et c'est qu'en fait, dans le futur, de façon démographique, il y a normalement potentiellement plus de personnes asiatiques dans le monde, et donc c'est pour ça qu'ils sont plus représentés dans cette époque-là, dans le vaisseau. C'est un peu comme quand Spielberg avait fait le film de Spielberg avec, il devinait à l'avance
Minority Report.
Minority Report. Il avait bossé avec des scientifiques pour voir qu'est-ce que ce serait le plus crédible, les trucs du futur au moment où le film se passe. Et ben là, c'est pareil, il y a des études qui ont été faites et il y a plein de choses hyper cohérentes. Pareil, tout ce qui est biodiversité, le fait que Michelle Yeoh soit biologiste et botaniste et qu'elle soit là pour que la création de l'oxygène. Enfin, il y a plein de trucs qui sont, d'un point de vue scientifique, qui sont hyper intéressantes, hyper poussées dans ce film, qui le rendent assez crédible, même si je crois qu'il y a quand même des conneries qui sont dites. C'est impossible dans le cinéma de toujours être à 100% proche de la réalité. Et voilà, c'est la conjonction de superbes images, il y a des plans mais de dingue dans le film visuellement, le soleil n'a jamais été aussi beau que dans ce film-là, ouais. Une musique de ouf, plein d'acteurs au top de leur art, plein d'émotions, il y a des passages, la sortie de Canada dans l'espace et tout, enfin, c'est moi, ça me fait fondre en larmes à chaque fois, elle est ouf cette séquence. La fin, quand tu dis un peu en LSD machin et tout, elle est pareil, démente, il y a des visions, des trucs que seul un génie peut faire. Voilà. Pour moi, c'est un des plus grands films de tous les temps. J'adore ce film. Vraiment, je sais que les gens vont dire, mais il est con, pourquoi il dit ça?
Parce que c'est vrai.
C'est moyen bof. Oui, mais non, mais c'est vrai. Mais voilà, j'ai beaucoup d'emphase pour ce film parce que je le trouve ouf et qu'il a touché quelque chose chez moi. C'est la conjonction de tout. Il y a l'émotion, il y a du grand spectacle, il y a une histoire humaine, il y a une histoire sur l'humanité. Enfin, c'est vraiment dingue. Aurélien, je te laisse continuer.
Ah bah, vous avez dit beaucoup de choses. Tout à l'heure, tu parlais de salles de ambiance pour Millions que tu avais vu avec Batman Begins. Eh bien, moi, Sunshine, sachez que je l'ai vu le même jour, coup sur coup, avec 300 de Zack Snyder. Donc, en termes de salles de ambiance, ça se posait aussi quand même pas mal là. Non, c'est vrai que Sunshine, c'est un monument. Enfin, parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est que le type, il arrive, il te dit. Bon, en fait, moi, je vais te refaire 2001 et Alien, mais à ma sauce. Alors déjà, tu n'y crois pas deux secondes parce que tu dis, bon, c'est un peu les films qui ont été refaits et refaits et refaits jusqu'à la nausée et personne n'arrive à la cheville de ces deux films. Et pourtant, Danny Boyle, il arrive et il fait son film à lui et ça lui ressemble et c'est cohérent. Et ça parle de tous les thèmes dont il parle d'habitude. L'homme face au groupe, qu'est-ce qu'on est dans le groupe, comment on se départit du groupe, si le groupe c'est Dieu, ça change quoi à la problématique? La déconstruction des thématiques de Danny Boyle dans ce film, c'est assez fou parce que en fait il arrive à se contredire mais aller à l'encontre de ses propres peurs. C'est-à-dire qu'en fait c'est tellement un cinéaste qui montre des individus qui deviennent dingues dans le groupe, et là il montre un individu qui, ben, pour que l'humanité survienne, et ben, il doit aller au bout d'un cheminement psychologique qui va à l'encontre de cette peur. Et moi je trouve ça assez fort. Le personnage de Kappa, c'est vraiment un des plus beau personnage du cinéma de Danny Boyle. Et c'est assez rigolo que Cillian Murphy ait joué Oppenheimer 25 ans plus tard ou 20 ans plus tard.
Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais.
Parce qu'effectivement, il y a cette connexion qui est assez folle. Mais effectivement, Sunshine, autant du fait que c'est un film qui raconte, qui se fond dans les thématiques de Danny Boyle de manière extrêmement parfaite, c'est en termes de cinéma, c'est juste de pur cinéma, c'est vraiment incroyable. Moi, je me souviens de la première fois où j'ai vu la scène où Mercure passe devant le soleil, mais rien que de le dire, j'en ai encore des frissons.
Le son aussi, ouais. Le design sonore, il t'englobe quand tu vois en salle. Tout le début, quand t'as le vaisseau qui passe et qui fait vombrer, ouais, la salle. Oh, rien que pour cette séquence-là, j'ai dit, il faut que je revienne plein de fois le voir et tout. En fait, 4 fois, c'est pas assez. J'en ai dû y aller plus. Mais c'est que je me suis acheté un équipement de cinéma de ouf à l'époque. Je me suis ruiné parce que je me suis dit, il faut que j'aie le Blu-ray de Sunshine. Il faut que je puisse voir ça à nouveau chez moi. Je m'étais ruiné pour un équipement de fou en vidéoprojection et tout, pour Sunshine. Vraiment, à quel point... Et la BO est injustement indisponible en support physique. C'était une des premières, d'ailleurs, qui ne sortait uniquement sur iTunes à l'époque, en MP3. Et il n'y a jamais eu depuis de support physique pour ça, ni un CD, ni un vinyle, ni rien. Non. C'est horrible. Alors qu'elle est juste démente, quoi.
C'est une super BO. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, Underworld a commencé à bosser sur la partition du film. Et en fait, ils sont partis faire autre chose. Et donc, ils ont laissé plein d'idées à Danny Boyle. Et Danny Boyle, il a pris tout ça. Il a dit à John Murphy, bah écoute, je te donne tout ça. T'en fais ce que tu en veux ou t'en fais rien. Tu fais ce que tu veux. Et puis, tu te débrouilles. Et John Murphy a sorti ça. Ce qui est quand même assez... C'est-à-dire qu'en fait, il allait prendre des bouts de ce qu'a fait Underworld. Il a rajouté des trucs à sa sauce. Cette partition, elle est dingue parce qu'en fait, le morceau principal que tout le monde reprend aujourd'hui, qui est même repris dans d'autres films, qui est donc sur la sortie de Canada... C'est un morceau qu'il avait écrit des années avant, en fait. Pendant le montage, il s'est dit, tiens, je vais quand même le tester, ce morceau, sur cette partie-là. Et quand il a montré à Danny Boyle, il a adoré, il a fait, tu vas me le remettre à la fin aussi, s'il te plaît. Et donc voilà, c'est vraiment presque les planètes s'alignent, quoi. C'est-à-dire que ce morceau, il a écrit, je sais pas, plusieurs années avant, et d'un coup, il le met sur le film, ça tombe parfaitement. Et ça devient un morceau extrêmement, le terme est un peu galvaudé, mais c'est vraiment iconique, au sens vraiment... Parce qu'effectivement, ce morceau, je pense que tout le monde le connaît sans même savoir que c'est éventuellement la BO de Sunshine parfois.
Dans Kick-Ass, tu le retrouves d'ailleurs, dans Kick-Ass, la séquence, oui, avec Nicolas Cage où il se passe des choses mauvaises pour lui.
Dans Wonder Woman 84 aussi, ils le reprennent. Ouais. Mais il est repris dans des tas de pubs, dans des bandes annonces.
À la télé, ouais. Et d'ailleurs, le film est tourné en pellicule, hein, j'ai vérifié. C'est donc pas Milan, ce dernier film en péloche de Danny Boyle, c'est Sunshine en fait.
Superbe photo de Alvin Kuchler qui vraiment. Enfin, je trouve que ce qu'il fait avec la lumière dans le film est essentiel puisque. Ce n'est que ça, en fait. Ils font face au soleil, donc la lumière est essentielle dans le film. Et ce qui fait Kuchler dans le film, c'est, je trouve ça assez, assez prodigieux, quoi.
Et donc François, alors Danny Boyle, c'est un génie, alors.
Sur ce coup-là, j'avoue. Moi, je ne le mets pas aussi haut que vous dans mon panthéon personnel, mais c'est un immense souvenir et c'est un film que je prends beaucoup de plaisir à revoir, effectivement. Rien que la toute première... Enfin, pas... Je sais pas si c'est la toute première scène, avec Cliff Curtis qui regarde le soleil avec différents degrés d'intensité. Cette scène... est absolument génial. Cliff Curtis, c'est un bon acteur qui a des hauts, qui a des bas. Là, c'est peut-être un de ses plus grands rôles. Et dans cette scène-là, la lumière est fabuleuse, la mise en scène, le montage, la touche sonore est incroyablement ad hoc. Et c'est un film qui est très stimulant, en fait, en termes de science-fiction, en termes de, voilà, d'invention visuelle, de renouvellement dramatique, d'intensité de jeu, de musique, de tout, effectivement. Moi, c'est la première fois que j'ai vu vraiment que je me suis dit... Je me rappelle, en fait, je dormais chez un camarade commun, Cyril, David Doucan, alias Doudou. Et c'est là, en fait, où j'ai vu le step-up entre le DVD et le Blu-ray. Il avait un équipement, alors peut-être pas aussi perfectionné que le tien, Cyril, évidemment, mais il avait un équipement quand même pas dégueu, et il m'a montré Sunshine. Quelques plans de vaisseau, et j'ai fait « Ah ouais !» Ah merde, ouais. Ah merde, il se passe quelque chose en fait.
Le film est pas si connu que ça, non. Hein, parce que moi récemment j'en ai parlé à des amis qui me demandaient justement un peu mon top, je leur parle de Sunshine, ils sont assez jeunes, enfin ils sont jeunes, ils ont la trentaine, donc c'est pas non plus des gens qui ont 15 ans, et en fait ils l'avaient pas vu, ils voyaient pas trop ce que c'était, et je me dis tiens c'est marrant, je pensais que le film, c'était quand même un film de la Fox, un gros machin quand même, tu vois, je pensais que le film était un peu connu, finalement c'est pas non plus un hidden gem caché que personne connaît, hein, mais il a pas ce, je sais pas si beaucoup de gens qui écoutent Discordia vont le voir le film après, je serais curieux de voir dans les commentaires sur les réseaux sociaux, je te fais l'engagement François.
Dites-le si vous avez vu Sunshine.
On adore. Mettez des étoiles sur iTunes.
Si les gens n'avaient pas vu le film, je serais curieux de savoir si jamais ils l'ont pas vu, bien sûr. Hein, si vous l'avez déjà vu, bon, là, toujours votre avis, mais juste dites, regardez-le après. Voilà, après tout ce qu'on a dit avec Aurélien et même François, c'est dithyrambe. Allez le voir et dites-nous si on n'a pas rêvé, quoi, si on n'est quand même pas fou. Mais voilà, je serais curieux de voir des gens qui l'ont jamais vu, qui le regardent et qui me disent, ouais, vous avez raison, les gars, ou alors non, vous avez fumé. Mais voilà, je serais assez intéressé d'avoir le retour d'œil neuf là-dessus, quoi.
Surtout que ça n'a pas été un succès à l'époque, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est dommage, enfin, il passe jamais à la télé par exemple, ou très rarement, ce qui fait qu'en fait c'est un film qui est devenu presque invisible, parce que il est sans doute sur Disney+, j'imagine, puisque c'est un film Fox.
Oui, Fox, ouais.
Est-ce que l'algorithme le propose à ce point-là? Parce que c'est vrai que c'est pas un film que... Enfin, je sais pas à quel point le film a une vie aujourd'hui.
J'espère qu'il n'y a pas du HD, parce que s'il y a un HD, c'est là qu'il faut tout que je rachète.
Je crois pas qu'il y ait du HD encore. Ouf, parce que récemment, je me suis, pour l'anecdote, je me suis racheté les Blu-ray de Danny Boyle, puisque certains Blu-ray de Danny Boyle faisaient partie de cette infâme catégorie de Blu-ray qui ne fonctionne plus aujourd'hui à cause d'une sombre histoire de résine périmée.
J'espère que t'as pas acheté Trainspotting d'ailleurs, parce qu'il a été annoncé chez Criterion là pour l'année prochaine.
Il a été annoncé effectivement en UHD. Ouais. Non, j'ai racheté Slumdog, j'ai racheté 127 heures parce qu'ils étaient périmés donc. Et Sunshine, j'ai pas vu du HD donc j'ai pas l'impression qu'il soit à l'ordre du jour pour l'instant.
Ouais, attendez un peu la Fox, j'ai plus beaucoup d'argent donc ne me sortez pas tout de suite en UHD, j'ai besoin de me refaire la phrase d'abord.
Mais je rebondis de façon très facétieuse et taquine sur ce que tu disais Aurélien, sur le fait que t'aies vu Sunshine et 300, c'était un petit peu les deux voies qui s'offraient au cinéma hollywoodien à la fin des années 2000, et Hollywood, comme un con, a choisi 300.
Après, moi, je fais partie des plutôt défenseurs de Zack Snyder.
C'est pour ça que j'étais taquin.
Je trouve que c'est un cinéaste intéressant, mais qui parle parfois lui aussi déborde pas mal. 300, effectivement, dans 300, il déborde pas mal. Mais moi, c'est un cinéaste que j'aime plutôt bien, pas au niveau de Danny Boyle, hein, effectivement, mais c'est un cinéaste qui m'intéresse quand même. Donc, je vais pas non plus faire le contempteur.
On en a déjà parlé ici, on en a déjà trop parlé dans deux épisodes. Ouais.
Mais c'est vrai que voilà, quand tu enchaînes Sunshine et 300, il y a quand même un monde.
Enfin, 300, c'est surtout moins flamboyant, 300, c'est moins novateur, on va dire. Enfin, il y avait tout le délire à l'époque de l'aspect visuel et tout, mais globalement, dans la narration et tout, c'est assez...
Non, c'est visuellement, en fait. C'est le choix Snyder qui a été fait, mais cela étant dit, j'ai tout de même l'impression de voir des traces de Sunshine, bizarrement, dans certains blockbusters chinois de SF, en fait. Dans les Wandering Earth, j'ai l'impression qu'ils essayent d'arriver, justement, à la fois au côté sidération visuelle et en mélangeant ça à de l'émotion, surtout dans le 2, en fait, dans Wandering Earth 2, mais qui n'y arrive pas, en fait, parce que c'est... faut avoir le feu sacré, toujours sans mauvais jeu de mots, bien évidemment.
Je pense que le Sunshine, je ne me souviens plus, j'avais peut-être vu les bonus à l'époque, mais le temps de pré-production a été très très long. Ils ont mis genre plus d'un an à préparer le film. Et c'est pour ça que le film est autant réussi, c'est qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Peut-être que les films chinois dont tu parles sont peut-être plus faits de façon industrielle, et sans dénigrer la qualité, hein, mais peut-être plus faits de façon mécanique, on va dire. Sunshine, c'est pas laissé au hasard. Et d'ailleurs, rien que le plan de fin de Sunshine, on va pas spoiler, mais où est-ce que je veux dire, le dernier plan avant le générique, c'est super beau, c'est magnifique. J'en pleure, rien que penser, tu vois, non, c'est... Oh là là.
Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, c'est un film qui a connu ses problèmes, parce que tu dis qu'il y a eu une longue préparation, mais même si ça, je crois pas que ça a été documenté ou dit de manière officielle, mais de manière officieuse, on sait que Danny Boyle et Garland, ils se sont pas entendus des masses sur ce film-là. C'est-à-dire que Danny Boyle avait tendance à dire, en tout cas c'est ce qu'il nous a dit nous, c'est que Alex Garland, il voulait être cinéaste, et que sur Sunshine, il avait sa vision et Danny Boyle avait la sienne, et que Danny Boyle était réalisateur, donc c'était Danny Boyle qui gagnait globalement. Et qu'en fait, je pense que c'est effectivement, il y a eu apparemment quelques frictions entre les deux, notamment sur le dernier tiers du film. Donc c'est un film qui en plus s'est pas fait, je pense, dans la sérénité absolue. C'est la dernière collaboration entre Danny Boyle et John Murphy. Parce que effectivement, c'est un film qui a mis beaucoup de pression, je pense, sur les épaules de Danny Boyle et de ses collaborateurs. Et même s'il a ensuite retravaillé avec Alvin Kuchler, en revanche, avec John Murphy, ils se sont pas mal brouillés sur ce film-là. Je crois qu'ils se sont pas reparlés depuis. Et Boyle s'est brouillé avec Garland. Apparemment, ils se seraient rabibochés depuis, mais ça, je sais pas trop. Mais effectivement, c'est un film qui a été compliqué à faire et qui, je pense, a mis beaucoup de pression sur Boyle et qui donc, ouais, au final, parvient à être extrêmement solide, alors que je suis pas sûr qu'il ait été fait dans la plus grande des sérénités. Ouais.
Bon, on s'est tous bien enjaillés sur ces deux premiers films. Il est temps de passer au problème. Il est temps de passer à Slumdog Millionnaire, film de 2008. Pour commencer, sur du positif, c'est un film qui m'emmerde passablement parce qu'on lui doit beaucoup, en fait, à ce film. Il a permis à Freda Pinto et Dave Patel d'avoir des carrières inégales, mais quand même des carrières assez notables. Il a permis à Rahman, grand compositeur indien de Devant l'Éternel, qui était en concert d'ailleurs à Paris hier ou avant-hier, je ne sais plus, de remporter un Oscar. Il a permis de faire connaître aussi Anil Kapoor. Alors Anil Kapoor, si vous avez vu Slumdog Millionnaire, c'est Evil Jean-Pierre Foucault. C'est le présentateur de Qui veut gagner des millions version indie. Et ça lui a permis d'avoir une carrière aux États-Unis, ça lui a permis de jouer dans la série 24 chrono, ça lui a permis de décrocher les droits indie de 24 chrono et d'en faire une version indie où il joue Jack Bauer et où c'est pas mal du tout, figurez-vous. Si vous avez la patience de regarder 24 en indien, c'est cool. Et voilà, il a offert un rôle à Irfan Khan, qui était plus convaincant que quand il jouait chez Michael Winterbottom. Voilà, donc il y a plein de trucs cool sur Slumdog Millionnaire. Après, il y a le film. Bon, alors...
Je vais vous laisser y aller parce que je passerai en dernier. Je pense qu'il faut vous lâcher votre nez.
En fait, t'es tout seul contre deux. Donc,
au milieu. Ouais, voilà. Ouais, je préfère que tu sois au milieu, Aurélien.
Non, puis après, on discute.
Allez, Aurélien.
Donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon des bas-fonds indiens qui bosse dans un call center après une enfance difficile, qui participe à Qui veut gagner des millions et qui arrive à un stade inédit. Et d'où suspicion en fait du présentateur joué par Anil Kapoor, du coup, qui le fait arrêter par la police, qui est interrogé par Irfan Khan pour savoir s'il a triché, pour savoir comment il connaissait les réponses. Et en fait, voilà, toutes les réponses sont liées à des anecdotes de sa vie. Et donc, on a l'histoire de ce gamin qui a eu une enfance très dure, qui a été exploité par des criminels, qu'on a forcé à mendier, qui s'en est tiré un peu comme il a pu. Et voilà, c'est très... Il y a tellement de choses qui... En fait, j'ai essayé d'aborder ce film loin de l'énervement que j'ai pu ressentir à l'époque. Après, il faut aussi recontextualiser. Qui veut gagner des millions, c'était vraiment un truc énorme. C'était un petit phénomène de société qui était très mis en scène, qui était très orchestré, dont on retrouvait tous les codes. Et de faire un film autour de ça, je trouvais ça... tu vois, on parlait de placement produit Pizza Hut dans Millions, mais là, moi, c'était le placement produit horrible, affreux par excellence, même si...
Imagine sur le juste prix, le même film avec le juste prix, enfin, il connaît les prix par cœur parce qu'il...
les amours,
les
amours.
Les vedettes. Les vedettes, magnifique film de Palma Show.
Ouais, c'est le vedette, t'as raison, c'est un peu ça.
C'est vrai, c'est ça. Donc déjà, moi, je trouvais ça horrible, et avec le recul, je trouve toujours ça un peu, mais ça va. Dégager du phénomène qui veut gagner des millions de l'époque, ça va un peu mieux, on va dire, mais je trouve toujours le scénar... complètement pété, quoi. Enfin, sur ses échos, l'idée de lier la vie de ce gamin aux réponses de qui veut gagner des millions, je trouve que c'est horriblement fait. Et je trouve le film très condescendant envers l'Inde et envers le cinéma indien. Voilà. Mais je pense aussi que c'est l'aspect fan gardien cerbère de l'industrie cinématographique indienne qui parle, et le fait d'avoir vu pas mal de films aussi où justement les Indiens répondent à ce pays qui a été son colonisateur pendant un temps qui a été fait de bas et d'encore plus bas, voilà, il n'y a pas eu de haut. Et voilà, de voir un Anglais s'attaquer à ça, et avec ce regard-là, avec ce côté... Il y a un peu du... Voilà, c'est limite du porno misère, en fait. Avec un côté réalisme magique qui je trouve être très déplacé, voilà. Et ça fait beaucoup.
Tout à fait. Alors, d'où je parle ? Je pars de très très loin. Je comprends tes griefs. Moi, je ne suis pas du tout comme toi un spécialiste du cinéma indien, j'en ai vu. C'est pas là-dessus que je vais me positionner, parce que je n'ai pas la même connaissance que toi pour juger... En quoi Slumdog serait différent, moins bon, condescendant par rapport à ce cinéma-là. Donc je préfère évacuer ça parce que je ne suis pas compétent en la matière. Je vais juste rester sur Slumdog. Moi, par exemple, le côté, tout ce qui concerne le jeu télé, effectivement, la marque qui veut gagner des millions, bon, après, on peut considérer que c'est pas très heureux d'utiliser cette marque-là. Je trouve qu'il y a un intérêt là-dedans, c'est que dans tout ce que tu disais, c'est qu'il y a une mise en scène dans Qui veut gagner des millions, et une mise en scène qui est limite dégueulasse, de est-ce que tu vas gagner le prochain palier ou est-ce que tu vas te rétamer comme une merde et gagner 1500 balles, qui en fait, Danny Boyle c'est quand même quelqu'un d'extrêmement malin. C'est quelqu'un qui manie l'ironie de manière extrêmement fine. Et pour moi, quand il utilise « Qui veut gagner des millions », il raconte quelque chose, il dit quelque chose. En fait, il dit déjà quelque chose sur l'appât du gain, et il dit quelque chose sur les sociétés qui mettent en scène cet appât-là. Et ça m'intéresse. Et je trouve ça, effectivement, je trouve que... Je le prends du bon côté de la force, si tu veux. Pour moi, c'est il dit quelque chose d'assez véhément là-dessus. Et d'ailleurs, il a souvent utilisé le jeu télé dans ses films pour parler de vénalité. C'était le cas dans Trainspotting, dans Petit meurtre entre amis. Il y a toujours un côté, il y a toujours une scène, une petite scène où un de ses héros s'imagine dans un jeu télé, et ça parle souvent de névrose, de vénalité, etc. Donc moi, tout ça, ce point-là, ça m'intéresse. Après, quand tu parles de tout ce qui est sur la misère du film, alors moi, c'est quelque chose qui m'a pas du tout gêné, parce que je suis assez, c'est un truc qui peut vite m'irriter, et j'imagine vraiment, imagine Slumdog réalisé par un Américain. Mais un American Studio, tu vois, vraiment un film de studio réalisé par un American Studio, j'aurais pas de nom là qui vient, mais genre un Gary Marshall par exemple, ou tu vois, un mec comme ça, je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment horrible. Le truc, c'est que pour moi, Danny Boyle, il fait un film de Dickens. Il fait Oliver Twist en Inde. Et effectivement, forcément, il se confronte à la misère, il se confronte au bidonville, et forcément, il se confronte à la corruption et à ce genre de choses-là. Mais il y a un truc qui, moi, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai pris dans le film, c'est que je trouve qu'il y a une différence entre filmer la misère et se repaître de la misère. Et que je trouve que Danny Boyle a du respect pour ses personnages, il aime ses personnages, et qu'en fait, ils ne sont pas définis par leur misère. Tout comme ils ne sont pas définis par une quête de gain. En fait, Jamal, il ne cherche jamais à gagner les 20 millions, en fait. Il cherche à retrouver la femme qu'il aime. Et je trouve que ce respect de ces personnages et le fait qu'ils ne soient pas définis par là où ils viennent, et qu'ils ne soient pas définis par ce bidonville d'où ils viennent, pour moi, c'est une grande marque de respect. Ça montre qu'en fait, c'est pas la misère qui est intéressante chez eux, et on ne va pas se repaître de ça. Et encore une fois, on est dans ce thème de prédilection de Danny Boyle, qui est le déterminisme. Il refuse le déterminisme. Et en fait, ce gamin, il refuse le déterminisme, et ce gamin, il fait tout pour faire la vie qu'il veut avoir. Et je trouve que ce respect-là, il est assez fort dans le film, parce que aussi c'est enrobé dans cette idée de conte de fées. Dans toute la scène où ils sont exploités gamins, on les voit dans la forêt, et puis et d'un coup ils sont traqués dans la forêt par les méchants, donc c'est l'ogre et la forêt, donc c'est vraiment un conte de fées classique à l'apéro ou à la grime. Et après c'est toute cette dimension de Dickens, de la de la misère quotidienne, de comment les gamins essaient de s'en sortir. Dickens, c'est quand même quelqu'un de qui c'est un peu leur Victor Hugo en Angleterre. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a une influence sur le storytelling assez folle. Et d'ailleurs, c'est une influence qui sera à nouveau patente dans Pistol, chez Danny Boyle. Donc voilà, tout ça m'intéresse parce que je trouve qu'en fait, le film, il est plus malin qu'il a l'air d'être. Mais je comprends qu'on puisse s'arrêter à ce qu'il peut avoir de crispant. Moi, il se trouve qu'il m'a jamais crispé. Et qu'au contraire, je trouve que c'est un film qui respire le respect pour ses personnages, qui respire l'amour pour ses personnages, et qui raconte juste une belle histoire, en dépit du contexte, et en dépit de ce que ça aurait pu être. Et d'ailleurs, juste une petite précision, pour moi, il y a un détail, un tout petit détail, hein, qui montre à quel point Danny Boyle refuse le pathos dans ce film, c'est qu'il a dit à Rahman, je refuse qu'il y ait du violoncelle dans ce score. Il n'y aura pas de violoncelle dans ce score parce que pour lui, le violoncelle, c'est un instrument qui sert au pathos. Et ça, je trouve ça de sa part, assez, parce que c'est quelqu'un qui connaît bien la musique. Et je trouve que c'est un détail qui en dit long pour moi.
Bah, il respecte ses personnages et en même temps, moi, le film, il me perd dès le début quand il saute dans, je sais pas, c'est du caca, une fosse septique.
Oui.
Je sais pas, justement, pour moi ça me force le côté misère. Enfin, c'est. Je trouve ça littéralement dégueu, en fait. Enfin, tu vois, enfin, mais dans tous les sens du terme, pas oulala, c'est du caca. Non, c'est. Voilà, pour montrer que ton personnage est prêt à tout, et en même temps joyeux de riz, et en même temps, là, tu fais passer par là, putain, mais. Et moi, ça me contamine tout le film derrière, en fait.
Mais je peux comprendre, je te dis, je peux complètement comprendre qu'on s'arrête à ce qui crispe, parce qu'effectivement, cette scène, elle peut crisper. Moi, je la prends en termes de caractérisation du personnage. C'est-à-dire que on est dans un contexte, ce personnage il est là et il veut passer outre. Et ben il se jette dans l'eau, il y a du caca. Voilà. Et je le prends comme le signe de sa détermination et du fait de ne jamais s'arrêter à sa condition et de jamais s'arrêter à l'obstacle qu'il y a devant lui. Et la misère et les bidonvilles et son milieu social et probablement sa caste et aussi sa religion puisque le film montre les attaques contre les musulmans. Tout ça, tous ces obstacles-là, pour lui, ça n'a aucun intérêt. Ces obstacles-là, il va les défoncer. Que ce soit du caca, que ce soit la misère, le bidonville, peu importe, les gangsters. Voilà. Je le prends comme de la caractérisation. Mais encore une fois, je comprends que ça puisse te crisper et je comprends que ça te contamine le film. Ça, je ne dis pas le contraire.
Ouais, et le côté gardien du temple des cinémas indiens. C'est pas tout à fait comparable parce qu'il y a finalement assez peu de cinématographie indienne à l'époque qui parle de ça. On est plus sur des cinémas du sud qui sont pas trop justement dans les canons bollywoodiens. Il y a quelques films bollywoodiens. Il y a Anurag Kashyap qui commence à tourner, à se faire un petit peu les ongles, on va dire.
Justement, je me posais la question parce que c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, Kashyap. Je me dis. S'il filmait certaines des choses de Slumdog, est-ce que ce serait aussi gênant? Parce qu'il filme des choses quand même assez dures, hein, Kashyap, dans son cinéma. Il montre la corruption de front, la misère de front. Est-ce que c'est moins gênant chez Kashyap que chez Boyle? Parce que c'est peut-être plus brut. Qu'est-ce qui différencie les deux? Dans leur regard compliqué. Là-dessus.
Le Kashyap de cette époque-là, il est beaucoup plus rentre-dedans et cash, mais il sera sur des choses, dans une représentation de la misère urbaine et d'une certaine vulgarité, hein, il faut le dire, mais sur des choses justement qui vont servir de poil à gratter pour la société indienne, en fait. Sur la représentation des femmes, de la drogue, il va montrer un personnage qui fume, tu vois, ce genre de choses, sur des codes très précis, hein, qui pour nous peuvent sembler anodins, mais qui sont énormes, en fait, en termes justement de subversion. Et il peut y avoir un côté troupier et parfois même rabelaisien, mais pas, il va pas faire ça, en fait. Il va pas plonger quelqu'un dans du caca. Non, mais je focalise beaucoup là-dessus. voilà. C'est caractéristique, en fait, de ça, tu vois. Ça fait très Kashyap, tu vois, le côté le gang, en fait, auquel ils appartiennent, auquel son meilleur ami appartient, etc. Ça fait très Kashyap, justement. Ça fait très... ouais, Gang of Wastepour, c'est gentil, tu vois, comparer ça à Gang of Wastepour, mais c'est très dans cette esthétique-là, mais ça marche pas, ça fait toc, en fait. Enfin, je trouve, dans Slumdog.
My two cents.
Bien sûr, pardon.
Permettre,
oui, oui.
Non, mais c'est que moi, quand donc, j'ai vu le film à l'époque, quand il est sorti, n'oubliez pas, hein, je suis un fanboy, oh, pas mal.
Hey
un fanboy, là, voilà. Et en fait, donc je sors de Sunshine, le meilleur film de tous les temps, machin et tout, quoi, et je vais voir Slumdog, tu vois, hyper hypé et tout, et je pète un câble devant le film, je trouve ça trop nul, je suis énervé, j'en peux plus. En plus, arrive derrière l'Oscar du meilleur film, où je dis putain, mais il a jamais été reconnu, Danny Boyle, on va dire, par ses pairs. Et là, c'est avec son peut-être son pire film qu'il a la reconnaissance. Donc, je suis vraiment vénère. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, on était dans le fou. D'ailleurs, le film, on n'aurait même pas dû en parler aujourd'hui, parce que ce n'est pas un film de Danny Boyle. Le film est co-réalisé par un Indien.
Ouais, non.
Et
non,
moi, je...
Ouais, ça, il y a polémique, justement, mais ouais, vas-y.
Il y a polémique, ouais. Mais moi, non. La polémique, c'est que ce n'est pas Danny Boyle, c'est un Indien
oui,
qui a tourné
ça, c'est ta théorie, en fait. C'est ta théorie du complot.
Voilà, c'est ma théorie. Donc, Danny Boyle n'a pas fait de mauvais film, ça va, parfait. Voilà, c'est bon. Non, mais vraiment, à l'époque, j'ai trouvé une raison de me
sentir. Même moi, j'aurais pas osé, Cyril.
Ouais, mais vraiment, je te jure, à l'époque, je me suis dit, mais non, mais c'est pas lui, c'est forcément pas lui. Ça ressemble à rien de ce qu'il a fait. C'est moche, le gamin, t'as envie de le baffer et tout. Enfin, vraiment, j'ai tellement haï ce film que pour moi, c'est pas un film de Danny Boyle. Et quand j'ai vu que c'était co-réalisé, je suis bah voilà, hop, c'est bon. C'est l'explication. Voilà, donc. Alors, c'est quoi l'histoire de polémique? J'avais entendu parler d'une polémique à l'époque, mais j'ai pas creusé. Pas de peur de casser ma théorie. C'est juste quoi? C'est juste pour les histoires de quotas, de financement. Il y a un co-réalisateur. C'est quoi le principe, en fait?
Le truc, c'est que Danny Boyle a voulu la créditer parce qu'elle l'a vachement aidé à diriger, voilà, les enfants.
D'accord.
À traduire le langage, pour que le langage hindi soit juste. Et c'est notamment grâce à elle qu'il y a autant d'hindi dans le film, parce qu'il y a près 25% de dialogue en hindi dans le film. Donc c'est pour ça qu'il a voulu la créditer. C'est un crédit entre guillemets qui a pas cours avec les syndicats américains, par exemple, parce que quand, d'accord, il a gagné l'Oscar,
seul, oui,
elle était pas nommée, mais pas parce que ils l'ont oublié, mais parce qu'en fait c'est un crédit qui a pas de, entre guillemets, de valeur pour les syndicats américains. Donc, mais lui, il voulait la créditer au générique parce que il estime qu'elle a été essentielle pour lui dans son travail de réalisateur au quotidien.
Mais moi, ouais, c'était au stade où, à la fin du film, en fait, tout s'accumulait. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment la somme de tout qui m'a rendu fou. Au point où, tu vois, à limite, quand il y a Paper Planes de Mia, je trouvais ça sympathique.
C'est le passage de bien, ça.
Voilà. Mais ouais, quand ils font, voilà, quand t'as le générique de fin qui arrive et qu'ils font Jai Ho, la chanson est super, la chanson de Rahman est super, qu'ils font leur petite chorégraphie de merde, excusez-moi, je dis les termes.
Elle est pas sincère, ouais, c'est pas sincère en plus cette chorégraphie, tu sens que ça fait trop regarder, on fait de l'indien comme vous voulez.
Mais j'étais là, mais va te faire foutre en fait, enfin, j'étais énervé à la fin du film.
Et... arrête de parler à l'écran, François, à l'écran, ne t'entends pas quand tu lui parles, donc arrête de lui crier dessus, ça ne sert à rien.
Mais je suis sûr que Dev Patel m'a entendu et qui sait. Il sait, tu sais, Dev.
Mais le film est plutôt, d'ailleurs, souvent, enfin, tu sais, comme c'est le film qui a le plus été connu de Danny Boyle, les gens aiment beaucoup, hein, tu vois, forcément, on n'aime pas trop, mais globalement, les gens sont plutôt de l'avis d'Aurélien. C'est un film qui est plutôt aimé, hein, dans ce que je sais.
Après, moi, je veux dire, si je devais faire un classement de Danny Boyle, je déteste faire des classements, hein, faut savoir ce qui est, mais si je devais faire un classement de Danny Boyle, il ne serait pas dans les premiers. Slumdog, c'est un film que j'aime beaucoup. Vraiment beaucoup, et quand je l'ai revu spécialement pour vous, pour être sûr de pouvoir dire des choses vraiment, hein, tu vois, de pouvoir, etc. Et je me suis dit, s'il déteste le film, il faut que je le revoie pour être sûr. Donc j'ai essayé de le voir avec un mauvais œil et j'ai pas réussi. J'aime vraiment beaucoup le
film.
Tant mieux. Mais après, ça, voilà, je peux pas dire que ça soit un de mes Boyle préférés. En fait, le problème de ce film, c'est qu'il a eu le malheur d'avoir 8 Oscars, si tu veux. Et que peut-être que le scandale, c'est que Danny Boyle n'ait pas eu l'Oscar pour Trainspotting,
ah oui,
par
mais
exemple.
C'est ça, ouais.
Pour moi, voilà, quand je te dis que pour moi c'est un film de Dickens, je le prends vraiment. C'est-à-dire, je le prends vraiment comme un Oliver Twist en Inde. Et du coup, bah, je le prends avec tout ce que ça implique. Et je comprends encore une fois que ça ne colle pas à tous les spectateurs. C'est là pour le coup. Le conte de fées et le conte à la Dickens, c'est vraiment pas pour tout le monde. Et moi, je trouve que là, ça fonctionne bien parce que je sens la sincérité de Danny Boyle. Tout comme je sens la sincérité de Don Mantel à la photo, qui, lui, a vécu en Inde, qui filme ça de manière comme il filmerait l'Angleterre ou le Danemark. Et je trouve que le film, en fait, respire la sincérité. Même la danse de fin, qui est à mille lieues d'arriver à la cheville des spectacles de Bollywood, je trouve ça sincère parce qu'ils ont, l'humilité de le mettre dans le générique de fin et pas au milieu du film, si tu veux. Parce qu'ils auraient pu. Un Américain aurait pu débarquer avec ses gros sabots et dire « Mais tu sais quoi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une grosse danse au milieu du film pour leur montrer à ces Indiens comme nous, on sait faire de la comédie musicale. » Danny Boyle, il fait pas ça du tout, il fait ça en générique de fin, parce que ça l'amuse, je pense, et qu'il est sincère, et voilà, je trouve que le film, moi, là-dessus, il fonctionne à plein.
Il arrive à un moment à capter cet esprit-là qui est très particulier, qui est une planète à lui tout seul, mais quand, justement, le montage sur Paper Planes, qui se passe dans un train, en plus, enfin, qui est vraiment l'endroit...
Oui.
Par excellence de rencontres ou d'aventures dans les cinémas indiens, là, ça marche. T'as 3-4 minutes un peu en suspension où tout d'un coup, il se passe quelque chose, c'est ok, c'est son interprétation et c'est cool. Mais le reste, moi, j'ai l'impression de voir, c'est comme si t'avais une... je vais être méchant, mais une intelligence artificielle ou extraterrestre qui arrive, qui regarde un film français,
et qui te rend
un truc qui est qu'est-ce qu'on a encore fait mille fois au ch'ti du bon Dieu, tu vois quoi. C'est atroce. Mais tu disais, Cyril, que le film est aimé, mais c'est pire que ça. C'est grâce à ce film-là, au-delà de tout ce que j'ai pu dire d'ailleurs au début sur les révélations diverses internationales que le film a favorisées, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Agilan, qui a bossé dans la société de distribution Ahana Film, et c'est le premier en fait à qui on doit d'avoir eu des films indiens récents sur les écrans en France en fait. Et c'est quelqu'un qui a poussé, qui allait voir les gros distributeurs et les gros exploitants français surtout en fait.
Personne de l'ombre qui a beaucoup bossé.
Ouais, carrément, et c'est grâce à lui en fait que maintenant tout ce qui se passe arrive quoi. Et il était à la fin des années 2000, il essayait, et tout le monde lui disait non mais de quoi vous parlez, et Slumdog Millionnaire sort et ça a débloqué, c'est ce qu'il m'a raconté, ça lui a ouvert les portes de Pathé en fait, parce que le grand patron de Pathé à l'époque était allé en Angleterre, voyait que ces films là marchaient, et il savait que Slumdog c'était un phénomène, et il a dit on y va, et c'est grâce à Slumdog Millionnaire qu'il y a le cinéma indien dans les cinémas français en ce moment, et c'est terrible,
c'est à la fois terrible et cool,
au moins un bon point.
Oui.
Voilà, bon point. Ça, c'est à mettre au crédit du film. Il y a moins un truc à sauver, c'est qu'il a permis d'avoir des films indiens en salle.
Non,
pauvre Aurélien, on lui casse son jouet. Enfin, même si tu dis que c'est pas non plus le film que tu préfères de.
Non, mais il y a aucun problème. J'ai jamais de souci à ce qu'on dise du mal d'un film que j'aime quand c'est fait avec sympathie et comme,
alors
voilà. Encore une fois, c'est. Quand je dis sympathie,
j'ai un peu ripé à des moments. Et je m'en excuse.
Non, mais on n'est pas là à dire que ceux qui aiment Slumdog sont des crétins et tout ça. Voilà. Ça me suffit. Moi, j'accepte complètement que François ou toi puissent détester le film. Il n'y a aucun souci avec ça, et je comprends les griefs, c'est juste que moi je ne les reçois pas de la même manière, et c'est normal en fait, c'est un peu la base, j'ai envie de dire, du cinéma, hein. C'est-à-dire que des gens reçoivent un message, d'autres ne le reçoivent pas, et après chacun a une manière de l'expliquer ou pas, donc moi il n'y a aucun souci là-dessus, hein. Vous n'avez rien cassé, t'inquiète pas.
Je vais pas insister, mais quand même, au-delà du côté Gardien du Temple, moi c'est vraiment le côté, tu disais que c'est pas un film, justement c'est un refus du déterminisme, mais oui et non. Tu vois, c'est ce côté-là aussi, je le trouve de tout expliquer. Enfin, ouais, je sais pas.
En fait, il explique tout. C'est ce que moi, ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, il a une connaissance, ce personnage, en fonction de sa vie. Et ça, c'est pas dû à quelque chose qu'il est d'inné. C'est quelque chose de vécu. Et ça, c'est la base de l'antidéterminisme, c'est-à-dire que en fait, ce que tu es dépend de ce que tu vis et pas uniquement de ce que ta condition t'impose. Donc ils ont beau dire que c'était écrit toute cette histoire, en fait c'est rien, c'est pas écrit du tout. C'est ce que les contes de fées essaient de raconter qui est écrit, mais en fait le film te montre bien qu'il y a rien d'écrit. En fait le destin de Jamal il est écrit par Jamal au jour le jour. Pour moi il y a juste une manière de présenter les choses qui est digne du conte de fées, mais en fait Danny Boyle il est pas dupe là-dessus.
Ok.
En tout cas pour moi.
Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Cyril ?
Non, une flaque de merde. C'est tout ce que j'ai.
Alors, toujours dans l'apaisement, spoiler, j'aime pas trop le film suivant non plus.
Ah bon ?
Même si
ah
je
bon
le trouve. Oui.
Bah là, par contre, tu vas être tout seul.
Oui, je sais. Non, mais c'est
ça s'inverse.
Je reconnais le travail, je reconnais le souci du travail bien fait, mais c'est un peu le côté Michael Winterbottom, c'est on passe à complètement autre chose et on fait une interprétation d'histoire vraie de façon cinématographique, et ça c'est cool. Le côté défi du film montré, alors 127 heures, inspiré de l'histoire vraie d'un ingénieur nommé Aaron Ralston qui est resté coincé, qui était fou de rap, qui était fou de sport extrême, qui était fou de roches à explorer,
fou de la vie,
voilà, sur la voie rapide sans prendre d'autostoppeur, disons-le, et qui se retrouve comme le bras coincé sous un rocher, qui n'arrive pas à bouger et qui s'en sortira 127 heures plus tard de façon, ma foi, assez croquignolette.
On peut le dire, parce que je crois que c'était quasiment dit à l'époque ce qui se passait, non ? Moi, je savais ce qui allait se passer.
On peut le dire. Ouais, il s'arrache le bras. Hein.
Avant de
le
voir.
Il s'arrache le bras, voilà.
Il me semble, Aurélien, que
c'est... Excusez-moi, parce que, disons les termes, il ne s'arrache pas le bras. Il se coupe le bras au couteau suisse.
Oui,
oui. Il chiquette le bras.
Il y a quand même une différence. Hein. C'est-à-dire que c'est une des scènes.
Pardon. Alors,
parce que c'est pas du spoiler, parce que c'est une histoire vraie.
Oui,
donc, en fait, le mec, il avait écrit un bouquin, il passait à la télé, etc. Donc, on savait ce qui allait se passer. C'est une des scènes les plus doloristes de l'histoire du cinéma. Parce
tu l'imagines,
le,
t'imagines
le mec,
ce qui se passe. Ouais.
C'est au-delà de ça. C'est-à-dire que quand il coupe les nerfs avec son putain de petit couteau suisse, t'as un travail sonore qui est dingue. C'est-à-dire qu'en fait, cette scène, elle est tellement sensorielle que, en fait, c'est inimaginable ce qu'il fait dans cette scène, Danny Boyle. Le travail sur le son, il est ouf dans cette scène.
Et donc, on suit ce personnage au début. C'est marrant, c'est un film très numérique dans la photo, dans l'image. Il y a des plans d'ailleurs de simili GoPro, des choses comme ça et tout, parce que forcément, le mec s'autofilme. C'est pas une GoPro, c'est une caméra, mais il se filme, il fait un peu son journal de bord au fur et à mesure qu'il essaie de s'en sortir, quoi. Et le film est très dynamique, rien que le début du film, quand on le voit partir avec son vélo dans les dunes, ouais. C'est génial, la musique est top. D'ailleurs, c'est le même compositeur que de Slumdog, donc Rahman, et la musique est vraiment géniale. Il y a pas, dans mes souvenirs, beaucoup de morceaux pop, alors je ne l'ai pas revu pour l'occasion, il n'y a pas forcément beaucoup de morceaux pop dans le film, dans mes souvenirs.
Il y a au moins un morceau pop.
Celui de la fin.
Absolument. Festival de Sigur Rós. Ah, qui est génial, c'est un des needle drops les plus dingues de la carrière de Danny Boyle. Moi, à la fin de 127 heures, je me roulerais dedans tellement je trouve ça incroyable. Donc, oui, au moins ça.
J'avais vu en concert Sigur Rós qui le jouait, ça rendait vraiment, vraiment mortel et fou. Tout. Quoi. Et donc, suit ces 127 heures. Du coup, alors tout le début, ça se passe pas avec le caillou. Il est avec plein de gens qu'il rencontre, dont Clémence Poésie. Oh là là. Rien que pour ça, le plus bel effet spécial de France ever. Et après, il y a tout ce passage-là où il va devoir essayer de survivre parce que forcément, il commence à avoir froid, chaud. Enfin, il commence à avoir soif et tout ça et tout. Et c'est génial. Alors qu'on suit, c'est comme du torture porn. On suit le calvaire de quelqu'un qui essaie de s'en sortir. Mais je sais pas. Pourtant, c'est un sujet nul qui aurait pu être un court métrage. Et pourtant, il en fait un film hyper prenant qui te prend. Au trip plutôt au bras, mais qui te prend pendant tout le film et tout, et vraiment tu sens pas le temps passer. C'est un film feel good sur un sujet pas feel good du tout, quoi. Mais j'adore ce film vraiment pour son dynamisme, donc c'est James Franco, c'est ça, que ouais. Moi je ne connaissais pas du tout, ouais. Apparemment qu'il était un sale con, je crois, c'est ça, François, si je me trompe.
Oui,
pas,
mais c'est pas ça le problème. Je veux pas manquer de respect à ce pauvre Aaron Ralston qui s'est coupé le bras au couteau suisse apparemment, mais ouais. Le personnage tout du moins qui est montré dans ce film, à la grâce de la caméra de Danny Boyle, de l'interprétation de James Franco et du scénario de Simon Beaufoy, moi je m'en fous en fait. Enfin, je trouve pas sympathique. Je trouve son cheminement intérieur hyper cliché.
Ouais, c'est pas un héros.
Hyper
hein.
Cliché et cucu la praline. Je vais pas invoquer les origines séminaristes que tu évoquais tout à l'heure, Aurélien, mais un peu dans la contrition et la reconnaissance de ses fautes. Enfin, ouais.
Ah oui, ce passage-là, c'est vrai. Oui, quand il pète un câble et tout. Ouais, j'ai oublié ce truc-là, tiens d'ailleurs.
Moi ça me gêne pas ça pour le c'est vrai que c'est pas un personnage sympathique et je pense que c'est voulu clairement quand le film commence effectivement et c'est quand même un gros égoïste qui kiffe son truc, qui fait son truc, il est un peu arrogant, il est un peu...
Moi, c'est pas ça. C'est ce qui se révèle au fur et à mesure en fait dans ses flashbacks etc et la façon dont il fait contrition, le fait que ce soit une espèce de beau gosse un peu creepy ouais, je sais pas.
Moi, le truc, c'est que j'essaie de je me dis, est-ce que, enfin, j'ai pris le film comme un exercice en empathie, et je me dis, en fait, on te montre ce personnage qui est pas très agréable. Il vit un truc qui est pas très agréable non plus, disons-le. Mais est-ce que toi, est-ce que moi, dans cette situation, j'aurais pas le même penchant à aller dans la contrition, à essayer de comprendre quelles étaient mes fautes, à essayer à regretter de pas pouvoir m'excuser de mes fautes, à regretter de ne pas pouvoir dire aux personnes que je les aime, ce genre de truc. Et je me dis peut-être qu'effectivement, dans ce genre de situation extrême, tu tombes dans cette espèce de cheminement, comme tu dis, un peu séminariste, de contrition et de m'excuser tes fautes, etc. Peut-être. Moi, j'ai trouvé ça assez juste. Je me suis dit, dans une telle situation, peut-être qu'effectivement, j'irai vers ça peut-être aussi. Alors, qu'ils y aillent avec les gros sabots, ça c'est possible. En même temps, moi c'est aussi ce que j'aime chez Danny Boyle, hein, c'est parfois il y va, il te rentre dedans. Et c'est quand même un cinéma qui te rentre dedans. Trainspotting et pas dans la plus grande des subtilités non plus. Donc moi c'est ça aussi que j'aime chez lui, c'est qu'il va venir te prendre au col et puis il va venir te secouer un peu en disant bah tu vois c'est pas agréable ce que je te montre. Et je sais pas, c'est un film qui m'avait plutôt plu à l'époque et qui à chaque fois je le revois me plaît davantage. Et je trouve vraiment cette explosion à la fin. La fin de 127 heures, c'est vraiment du pur cinéma. Quand toute cette séquence sur Sigur Rós, je trouve que c'est l'essence même de la puissance du cinéma de Danny Boyle. C'est-à-dire qu'il montre à quel point son cinéma est d'une puissance vraiment folle en termes d'émotion et de sensoriel. Moi, je trouve ça vraiment très fort.
Ouais, Aurélien, souvent, moi, je me relance le film, je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais juste pour le plaisir de voir à la fin. Que je regarde le film entièrement juste pour ce plaisir de cette fin, de cette musique et tout. Et je l'ai lancé plein de fois juste pour ça, en me disant « Ah putain, c'est vrai que ça va être cool et tout. » Et voilà, donc c'est vrai que c'est un moment assez galvanisant et c'est typiquement du Danny Boyle de faire des moments comme ça de grâce ou avec la belle musique et tout.
Puis je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est assez fort ce qu'il fait parce qu'il a quand même un personnage dans un petit canyon et cette capacité qu'il a à créer un découpage qui n'est jamais trop évident et qui est toujours en train de se renouveler, qui replace constamment le personnage dans la nature et dans son environnement. Je trouve qu'il y a un découpage assez fort dans le film. Il a, en termes de mise en scène, c'est quand même un peu un tour de force, quoi.
Il y a cet aspect-là, contrition, etc., où je vois les coutures, et pareil,
Mais cette fin, François,
non,
cette
mais alors
fin.
Justement, j'y viens. Le fait que le personnage soit ingénieur est quelque part toujours en contrôle. C'est-à-dire que, enfin, il essaye plusieurs choses qui ne marchent pas, et puis finalement, il choisit la solution de pragmatisme quand il n'y arrive pas. Et je veux dire, je vois l'intention, pareil, je vois la couture et ça ne marche pas. Et même dans cette fin, enfin, je pense que c'est quand il arrive à l'extérieur et qu'il rencontre des gens pour la première fois, pareil, en fait, il reste dans cette espèce de pragmatisme qui fait... Moi, j'ai senti la même chose que vous à l'époque. C'est-à-dire, je vois cette fin, et peut-être parce que le film est enfin fini et c'est cool, mais il y a quelque chose, effectivement, de libérateur, évidemment, bêtement, basiquement, faute de pouvoir l'exprimer mieux... Mais où, justement, la mise en scène, le fait que la caméra soit floue, que tout d'un coup, il y ait de la vue subjective et que ça marche bien par rapport, justement, à ses interactions avec ses personnages. Là, en fait, j'ai revu le film à l'aune de ce pragmatisme. Et c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que le mec est à l'article de la mort, il rencontre des gens et il reste très pragmatique. Il donne des ordres, en fait. Il dit, bon, donnez-moi à boire. Toi, va le chercher. Toi, va là-bas. Et ça m'a gonflé.
C'est très bien, ça.
Et ça m'a gonflé. Non, ça me gonfle, en fait. Parce que je vois les coutures
Le théâtreux, là, au diable,
le un peu théâtreux, de contrainte, mais ça va, de oui.
Voilà, un peu de carré dans ce monde, bordel, quelqu'un qui est un peu carré, qui sait ce qu'il veut, c'est ça qu'on s'en sort d'ailleurs.
Qui sait parler aux gens, voilà.
Les poètes, ils vont rester sous le caillou à mourir. Hein.
C'est de ça dont la France a besoin, monsieur. Crever, quoi. Quelqu'un qui se coupe le bras au bouc aussi.
Francis Lalanne, il meurt, alors que lui, il reste vivant, tu vois, voilà.
Ça fait deux fois qu'on cite Francis Lalanne.
C'est
vrai qu'Aurélien reste cool malgré toutes les insanités que je sors, et là c'est peut-être le point de trop.
Non, mais bon, on va pas s'énerver pour si peu. Hein.
Surtout que tu as tort, donc.
Possible.
C'est la discorde, la discorde.
Tout à fait. Est-ce qu'on passe au projet suivant? J'allais dire film, mais non, projet.
Ah, projet.
Projet suivant, donc National Theatre Live 2. Frankenstein. C'est une série de retransmissions donc de ce grand théâtre anglais, et avec cette proposition de Danny Boyle de revisiter le classique de Mary Shelley, avec une proposition au centre justement de ce projet-là, c'est d'avoir deux comédiens, en l'occurrence Johnny Lee Miller, Sick Boy de Trainspotting, et Benedict Cumberbatch, qui jouent à tour de rôle la créature et le scientifique, avec des petites variations dans les deux versions, mais on va en parler. J'ai trouvé ça léger, les variations, mais c'est intéressant et ça participe de l'unicité de ce projet. Ce qui est marrant en plus, c'est que Benedict Cumberbatch et Johnny Lee Miller ont tous les deux joué Sherlock Holmes par la suite dans des versions post-modernes. C'est complètement le hasard, mais c'est rigolo. Et alors, je vais y aller tout doucement en disant que déjà c'est une captation. C'est une captation, et le spectacle vivant, souvent, ça porte bien son nom, faut le voir sur scène, faut le voir interprété par des comédiens, et tu perds énormément de choses avec la captation. Et là, tu vois qu'il y a une scénographie de malade, mais vraiment, hein, sur les changements de décor, sur les lumières.
Mais sur la captation, François, je voulais juste dire un truc, François, sur la captation, il y a des trucs que j'ai trouvé surprenants, c'est que tu as des plans de caméra que tu peux pas voir en tant que spectateur. Il y a des plans de caméra genre en plongée totale et tout. Et je me dis, tiens, c'est marrant, ils ont fait des trucs que quand t'es sur scène, hein, enfin quand t'es dans le public, tu verrais pas forcément de cet angle-là. Et je trouve ça curieux qu'ils fassent ça. Ce qui pour moi m'a pas gêné, tant mieux, c'est un plus. Mais c'est con, j'aurais vraiment préféré avoir le point de vue vraiment du spectateur tel que eux l'ont.
Ouais, c'est fait, ça. Oui, oui.
Le fait qu'ils changent les angles de caméra, j'ai trouvé ça bizarre en fait.
Après, voilà, c'est pas une captation lambda. C'est pas, on a laissé une caméra sur un trépied et puis vas-y, roule mémé. Je sais pas pourquoi j'ai dit roule mémé, mais allons-y. Mais je préparais le terrain pour dire que j'étais pas totalement convaincu par certains partis pris qui relèvent pour le coup de la direction d'acteur. L'incarnation de la créature par Johnny Lee Miller, la pièce commence par la venue au monde de la créature et par une scène qui est très longue volontairement pour te mettre dans une forme de malaise aussi, où la créature pousse des borborygmes parce qu'elle ne sait pas encore parler et essaye de se mettre debout, et c'est très performatif, on va dire, comme interprétation, très long, très laborieux, mais en même temps, ça fait sens, et ça a fait que j'ai eu du mal derrière à rentrer dedans, quand même. Mais cela dit, il y a des appréhensions de l'œuvre de Mary Shelley qui sont intéressantes, il y a des beaux moments dans la pièce, il y en a qui sont ratés, je trouve, mais c'est sûrement dû à la captation aussi, mais voilà, allons-y. Qui veut se lancer sur Frankenstein ?
Je vais bien commencer, Aurélien, si tu me permets. Je l'ai découvert aujourd'hui, hein. je l'avais pas vu cette captation, je savais qu'elle existait, mais je ne l'avais pas vu. C'est marrant, ça préfigure ce dont on va parler plus tard, à la fin du podcast, sur plein des aspects. Donc ces décors qui apparaissent, qui disparaissent, il y a une machinerie, il y a un travail technologique fait par des ingénieurs, François, des ingénieurs pragmatiques, qui ont fait des choses magnifiques.
Sans se couper le bras, disons-le.
C'est le mec du fond, etc.
Sans se couper le bras. Et autant l'interprétation, je reviendrai sur Cumberbatch après et Johnny Lee Miller, mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la mise en scène de Boyle et le jeu sur les éclairages à la fin quand ils vont dans le tunnel de lumière. Il y a des passages vraiment sublimes, je trouve. Il y a sur des fois, ils éclairent la moitié de la scène et du coup, tu arrives à créer du champ contre champ. Enfin, c'est super intéressant comment il a travaillé sa mise en scène. Il y a des plans assez dingues de quand il y a plein d'acteurs qui arrivent avec de la machinerie. Enfin, il y a vraiment des choses belles. Après, moi, je connais bien l'œuvre de Mary Shelley. C'est un roman que j'aime beaucoup et j'ai vu pas mal d'adaptations de Frankenstein, donc je connais bien l'histoire. Effectivement, il y a des trucs qu'il a adaptés des fois il y a des passages qu'il a, je trouve, un peu laissé de côté. Enfin bref, il y a du pour et contre dans l'adaptation. Et donc, comme tu disais, chaque soir, on pouvait voir, je sais pas c'était quoi la fréquence, si c'était
tous les soirs
soir sur deux,
hein,
ou si c'était une semaine sur deux. C'est tous les soirs. Donc moi, j'ai regardé la version où c'est Cumberbatch qui fait le Victor Frankenstein, et donc Johnny Lee Miller qui fait la créature. Je trouve que c'est mieux parce que Cumberbatch, en fait, en regardant cette captation, je me suis quand même dit, même si c'est une évidence, j'ai dit, quand même, c'est un putain d'acteur, quand même, il est quand même méga bon. Il a une capacité, tu vois, d'éloquence et tout, c'est assez impressionnant, parce que je trouve que Johnny Lee Miller, à moins, donc quand il faut faire justement le baron Victor Frankenstein qui est quand même un aristocrate et tout, je trouve que Cumberbatch s'en sort mieux, et au contraire la bête, vu qu'il est un peu plus bestial, Johnny Lee Miller, je trouve qu'il est mieux dans le rôle de la bête, même si effectivement comme toi au départ quand il fait je me suis dit mais c'est un peu gênant tout le début quand il parle pas, mais voilà, mais à part ça les idées mises en scène quand ils mettent le feu à la baraque, il y a plein de trucs que je trouve, j'étais subjugué, mais comme je t'ai dit, ça rappelle beaucoup ce qu'on verra après, qui est encore une version mille fois mieux que ce Frankenstein. Aurélien, je te laisse la parole.
Vous avez dit le principal. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le revoir, malheureusement. Je l'avais vu à l'époque au cinéma, parce qu'il était passé au cinéma. Ouais, les pâtes et l'argent. À l'époque, c'était un Gaumont live, puisque je l'avais vu un Gaumont des Champs-Élysées. Et j'avais trouvé ça. Pour tout dire, moi je suis pas un gros théâtreux. C'est-à-dire que le théâtre, c'est vraiment pas un truc que je connais bien, et c'est un truc où j'y vais rarement. Et quand j'ai vu la pièce, j'avais trouvé ça assez fort, et je m'étais dit, dommage qu'il n'ait pas fait un film. Ça veut dire à quel point je suis pas un théâtreux. Parce qu'en fait, effectivement, je trouve qu'il y avait des choses assez fortes, comme vous disiez, sur la mise en scène du décor, et sur les apparitions de décors, etc. Mais moi, ça m'avait intéressé, comme toujours, parce que je commence à s'incluer dans son cinéma et dans son œuvre, et que, effectivement, dans cette optique de l'individu face au groupe, je pense qu'il n'y a rien de mieux que le thème du monstre. Surtout qu'ici, il y a vraiment une dimension tragique, c'est-à-dire que c'est un monstre qui est né de la société humaine et qui ensuite est complètement rejeté par elle. Donc il y avait un truc, vraiment un jusque-boutisme dans l'exploration de ce thème, donc je trouvais ça intéressant. Après, voilà, c'est comme disait François, ça reste une captation. J'aurais bien aimé la voir en live. Ou alors j'aurais bien aimé qu'il en fasse un film. Là, on a un peu le cul entre. Si on doit juger la captation, on a un peu le cul entre deux chaises et ça donne envie de voir la pièce ou de le voir en film, quoi. Mais ça reste une proposition ultra intéressante parce que, effectivement, ça lui ressemble. Et on voit à quel point c'est quelqu'un qui a un vrai regard, Danny Boyle. C'est-à-dire que même quand il fait du théâtre, c'est pas son médium de base, même s'il avait commencé par faire du théâtre, hein, mais c'est pas le médium pour lequel on connaît le plus, on va dire. Et on voit qu'il a toujours le même regard, on voit qu'il a les mêmes idées fortes, on voit que c'est lui qui fait ça. Donc voilà, on le décèle là-dedans. Donc moi, j'avais trouvé ça intéressant. Pour tout dire, je me souviens même plus si j'avais vu Cumberbatch ou Johnny Miller en monstre, donc c'est peut-être un signe que ça m'avait pas marqué à ce point-là, on va dire. Même si j'avais trouvé le projet vraiment intéressant, et sur le coup, ça m'avait plu, hein, ça c'est clair.
Bah, Cumberbatch essaye de se dépatouiller du monstre un peu comme il peut. Il est moins justement dans le côté pousser des hurlements comme peut le faire Johnny Miller au début. Il est plus sur un côté enfantin. Et Johnny Miller, moi, son Victor Frankenstein, donc le savant, je le trouve pas mal en fait. Mais c'est effectivement Cumberbatch a plus, je sais pas, d'éclat, on va dire. Tu te dis, oui, c'est un aristocrate du 19e, il n'y a aucun problème.
Mais... Ah ouais, il pose le personnage quoi.
Mais Johnny Miller, en fait, ce que j'aime bien, c'est que son personnage est veule. Il est beaucoup plus. Voilà, il monte ses failles beaucoup plus vite en fait, et il le fait pas forcément dans la démonstration. Et ouais, j'aime beaucoup l'incarnation de Johnny Lee Miller en Victor Frankenstein. Et après, c'est la fin, la scène du viol que je trouve grotesque. Enfin, ça va pas du tout. Et ça se rattrape un peu sur les dernières, vraiment dernières scènes, mais ouais. C'est plus effectivement tu sens qu'il fait qu'il teste, je sais pas s'il avait déjà eu le, bah si sûrement en fait parce que ça allait d'avant le gig de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012, mais tu sens qu'il teste des trucs. Il y a clairement des motifs qui vont revenir, enfin le train qui arrive, voilà, c'est quelque chose que tu retrouves sous une autre forme, mais t'as le même mouvement vraiment de scénographie qui est appliqué. Voilà, il teste des trucs, ça marche, c'est assez impressionnant par moment. Après, bon.
Et il y a une musique d'Underworld, et dès le début, je me suis dit, ah, ça c'est du Underworld quand il y avait les intermèdes entre les changements de décor et tout, et voilà, super musique d'ailleurs, très discrète, on l'entend pas souvent, mais voilà quoi.
Ce qui nous amène au dernier projet de cet épisode, et quel projet ? Donc la cérémonie d'ouverture des JO de Londres, alors qui a été rebaptisée Isle of Wonder, et c'est une relecture de l'histoire britannique avec beaucoup d'apparitions de célébrités, de l'excellence britannique. On a Sir Kenneth Branagh, on a David Beckham, on a la Reine d'Angleterre, on a Daniel Craig,
les Spice Girls,
Rowan Atkinson, qui est très bon, qui fait du pur Rowan Atkinson, mais c'est ce qu'on veut.
Lewis Paddington.
Oui, tout à fait.
Avec la Reine Mère.
Et dans une scénographie, dans un stade qui est incroyable,
Non, c'est dément.
Et on sent qu'il y a une compétition avec Zhang Yimou quand il fait les cérémonies d'ouverture chinoises. Enfin, il y a de la surenchère, mais on est plus sur quelque chose de typiquement anglais, même si c'est très impressionnant. Il y a un côté humoristique, il y a tout le côté folklorique, il y a aussi le fait d'embrasser l'histoire et ses zones d'ombre de façon à la fois frontale et avec un petit côté second degré marrant. Et c'est très impressionnant, c'est un travail très 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 impressionnant. Et quand tu compares la coupe, l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, c'est une autre limonade.
L'homme poulet.
Il y a clairement un monde. Et en fait, le truc, c'est que là, pour le coup, j'ai eu le temps de le revoir, parce que je l'avais vu à l'époque. Et un soir d'insomnie, j'ai pris mon petit iPad et je me suis retapé la cérémonie. Et c'est vrai que...
Oui. Après 4 heures, t'as quand même 1h30 de défilé de drapeau.
Oui, mais la musique continue.
Ouais,
ça fait partie du... Ouais.
Pardon.
En fait, la différence avec l'infâme... cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, c'est qu'en fait, quand la France fait une cérémonie, t'as l'impression qu'elle est incapable de s'inscrire dans la modernité. Donc en fait, manger de la boostify et boire du vin avec ses potes, c'est forcément 1952. Comme si ça n'existait pas en 2023. Donc forcément, t'as Jean Dujardin qui s'appelle Jean-Mich et qui lance du pain comme si c'était des ballons, et tu dis, mais en fait, moi je vis pas dans ce pays-là, en fait.
Vous n'avez pas de béret, Aurélien Alain.
Et Danny.
Intéressant.
c'est ça. Tu vois. J'ai rien contre les bérets, j'ai rien contre le boire du vin entre potes, hein, c'est pas la question. Et j'ai rien contre les années 50. C'est juste qu'au bout d'un moment, en fait, on peut parler de l'identité d'un pays sans que tomber dans le passéisme obligatoire. Et Danny Boyle, justement, c'est ça qui est impressionnant dans cette cérémonie, c'est qu'il parle de l'histoire de la Grande-Bretagne et qu'il est dans une modernité totale. C'est-à-dire que, en fait, c'est au bout de 2 minutes, je crois, au bout de 2 minutes, sur le générique de début, t'as God Save the Queen chanté par les Sex Pistols. Tu te dis, mais en fait, ça y est, il est là vraiment pour célébrer la culture britannique, la culture anglaise, et il le fait avec une modernité totale. C'est-à-dire que il y a à la fois effectivement Branagh qui fait du Shakespeare, évidemment, Didier Rascal, oui, qui te tape un rap de folie en plein milieu. Il y a une diversité, il parle de l'immigration caribéenne. En fait, c'est ça, c'est que il célèbre tout, et il célèbre tout avec la même modernité et la même joie. Moi, j'avais trouvé que c'était une cérémonie extrêmement joyeuse. Même quand il parlait de révolution industrielle, qui est quand même, tu vois, la scène de révolution industrielle avec les tambours, les ouvriers qui débarquent, les cols bleus qui débarquent avec les tambours dans tout le stade. Tu te dis, mais en plus, t'as une Zik Electron, on dirait du Vangelis. Enfin, c'est du Underworld. Mais c'est ultra moderne, en fait. Et en fait, célébrer l'histoire du pays, pour lui, ça veut pas dire être rance et célébrer une espèce de passéisme. En fait, il le fait avec modernité, et ce spectacle, il est vraiment là-dessus incroyable.
Pour expliquer ceux qui ne l'auraient pas vu, il faut imaginer qu'un stade, c'est
Olympic Stadium. Ouais.
Voilà, donc il faut imaginer que le centre du stade, là où il y a les compétitions. Et tout. En fait, ils ont construit un décor modulaire, mais dingo. Et quand on parle de révolution industrielle, au départ, il y a genre de l'herbe avec des gens qui marchent dans l'herbe. Et tout d'un coup, tu as des cheminées qui se mettent à sortir en temps réel du tout. Ouais. Mais c'est ouf. Et ça devient une ville qui est construite devant toi. Mais c'est fait avec tellement de beauté. Et comme tu disais, les tambours et tout, il y a vraiment un truc dingue. On a dit Underworld, mais la BO de Underworld, la BO d'ailleurs est vendue, on peut acheter la BO des Jeux Olympiques, il y a plein de morceaux, il y a Michael Field par exemple, il y a Tubular Bell, il y a plein de trucs comme ça et tout, et il y a un énorme morceau, donc c'est, tu disais tout à l'heure, François, ça s'appelle comment le spectacle, c'est
Isle of Wonder,
voilà, bah c'est le morceau phare de Underworld qui dure, je crois, peut-être 20 minutes, il est super long ce morceau. Il est ouf, moi je l'ai écouté souvent, c'est un super morceau quand vous voulez bosser, à mettre en fond, il est génial, il est assez galvanisant. Et voir donc ce ballet d'humains et de machines pendant la première heure, après, comme tu dis François, il y a les drapeaux et tout, mais ça continue encore. Et ce qui est marrant, à des moments, il y a des passages assez dingues où on va suivre donc des personnages sur le centre de la scène qui vont rentrer dans une maison. Et à ce moment-là, on a une vidéo de quand ils sont dans la maison et tout. Il y a des passages de relais comme ça entre des passages enregistrés. On parlait tout à l'heure de Paddington et la Reine Mère. Enfin, il y a des mélanges comme ça et tout, mais c'est un des plus beaux spectacles vivants que j'ai pu voir. J'ai pas vu un spectacle d'ouverture de JO aussi bien depuis très très longtemps. C'est un des meilleurs. Et quand maintenant j'en vois un, à chaque fois je me dis toujours, putain, mais ils sont pas au niveau de Danny Boyle, ils sont pas au niveau de ce qu'a fait Londres à l'époque. Et quand tu disais dans la modernité, il y a aussi toute la pop culture qui est mise en avant, donc les groupes récents forcément et tout, même ce que l'a apporté Londres. Il y a des passages aussi un petit peu jeux vidéo. Enfin, il y a vraiment. Si vous avez 4 heures, franchement, ça passe crème. Mais non, mais je vous jure, en plus, c'est en HD sur YouTube, c'est sur la chaîne officielle des Jeux Olympiques. Ouais. Franchement, ça passe crème, c'est un super spectacle à regarder. Rien que pour la musique, ça vaut le coup, de toute façon. Et puis, comme tu disais, il y a plein de stars, il y a même des avions qui passent. Enfin, il y a un James Bond, il n'y a pas un hommage à James Bond.
C'est tout à fait. Ils arrivent en parachute.
C'est du spectacle de dingue. Et quand on disait tout à l'heure sur Frankenstein, bah, je pense qu'il a commencé à tester des choses sur l'apparition de décors et tout. Il s'est fait un peu la main là-dessus, je pense. Mais voilà, c'est vraiment, en tout cas, un cadeau énorme que Boyle a fait à l'Angleterre, parce que c'est une des plus belles cérémonies d'ouverture d'un événement public de l'ère moderne, on va dire. J'étais pas là à l'époque de la création des Jeux Olympiques, donc je peux pas dire si c'était mieux en Grèce antique et tout, mais en tout cas, là, de l'ère moderne, c'est ce que j'ai vu de mieux. Voilà, quoi.
Ouais, bah c'est clair que quand t'as une cérémonie où t'as Arctic Monkeys qui joue Come Together, c'est que vraiment t'as arrivé une sorte de crème de la crème. C'est-à-dire que c'est ça qui est fou chez Danny Boyle, c'est qu'il comprend vraiment son pays et qu'effectivement, chez lui, Shakespeare côtoie Harry Potter. Quand il rend hommage à la littérature, il rend hommage à tout, y compris à Harry Potter, quoi. Parce qu'il sait qu'en fait, cette culture populaire, elle est importante. Parce que c'est aussi de là d'où il vient. Lui, il vient de la culture, d'un milieu populaire. C'est un col bleu, Danny Boyle. Donc, quand il rend hommage aux ouvriers de la lutte ouvrière, de la révolution industrielle, c'est pas juste pour la blague, hein. Il le fait parce que pour lui, ça a du sens. Et en fait, c'est tout ça est fait avec une telle sincérité que moi, j'ai trouvé ça, ouais, le terme, c'est joyeux. Il y a un moment où il y a un cœur d'enfant qui chante l'hymne en piju. Ils sont en pyjama et ils sont tous morts de rire. Et en fait, je trouve que c'est extrêmement joyeux, quoi. Enfin, c'est pas pompeux, c'est pas lénifiant, c'est pas chiant, quoi. Enfin, tu vois des gens qui s'amusent et qui célèbrent leur pays sans que ça ait de relents patriotiques dégueulasses, tu vois, genre, ouais, c'est nous les plus forts. Non, c'est pas ça, quoi. C'est vraiment, ouais, bah, chez nous, tu vois, on c'est autant Michael Field que les Sex Pistols, c'est autant la révolution industrielle que l'immigration caribéenne. Et je trouve que tout ça, c'est... Enfin, il y a quand même un passage où Michael Field, il joue Tubular Bells en hommage à la NHS, donc au système de santé anglais, quoi. Et tu te dis, mais tu verrais pas ça en France, quoi, ou de manière complètement pétée. Et ça fonctionne, quoi. Tu te dis, un milieu de l'exorciste sur des gamins.
Tu aurais jamais ça en France. En France, tu aurais pas l'exorciste qui serait mis en avant comme ça. C'est vraiment, ouais. Ils ont pas honte. C'est un peu aussi le soft power, montrer la puissance de l'Angleterre et tout. Mais
bien sûr.
Quand t'es fan de ce pays, moi, ce qui est mon cas, et selon le vôtre, et de cette culture. Ah mais c'est du caviar, c'est vraiment du caviar, t'en as pour tous les goûts. Hein. Regardez ces putains, 4 heures, regardez ça, ne perdez pas de temps.
Oui, clairement, vous aurez, voilà. Paul McCartney.
Faites Sunshine et ça, défilé, vous faites pas chier. Là.
Moi, le seul truc qui m'avait étonné, c'est que dans tout le segment sur la musique, il manquait, parce qu'il y a quasiment tout le monde, hein. Il y a Bowie, il y a Queen, il y a Blur, enfin, il y a vraiment... Et non, il n'y a pas Oasis, il n'y a pas Elton John non plus. Et j'avais été super étonné de ces deux oublis.
Elton John surtout.
C'est quand même de... Oui, bah après, Oasis, qu'on aime ou pas, ça a quand même été un groupe important pour la culture anglaise, tu vois. Donc ça m'avait étonné.
Les frangins Gallagher venaient pas de se battre en loge, quelque part.
C'est possible, hein, qu'ils soient embrouillés.
Peut-être, c'est possible. C'est possible. En tout cas, oui, c'est clair que c'est un super spectacle. Que même en dehors des JO, si les JO vous intéressent pas, c'est pas là le problème. C'est un très très beau spectacle qui célèbre la culture britannique. Et qui le fait de manière intelligente et joyeuse, et je trouve ça se regarde tout seul, quoi, vraiment.
Alors, ça a été écrit par Frank Cottrell Boyce, notre camarade de tout à l'heure, scénariste de Minions, de Code 46 pour Michael Winterbottom, non, et d'autres trucs pour Michael Winterbottom.
T'arrêtes avec Winterbottom.
Et moi, je lui mets sur le dos les passages que j'aime moins dans la cérémonie. C'est les passages un peu modernes avec les jeunes qui s'envoient des textos. Mm-hmm. Bon, ça a un peu vieilli. À l'époque, c'était cool.
Ah,
à l'époque,
ouais.
C'était cool. Oui. Voilà.
Oui. Là, c'est vrai qu'un, oui, ça a pris un peu cher, effectivement. Par contre, le passage avec James Bond, ça, c'est un truc. Enfin, je veux dire, c'est prodigieux d'arriver à un degré d'intégration de la culture populaire dans un tel événement. C'est-à-dire que t'as quand même James Bond qui va chercher la reine, quoi. Enfin, la vraie reine. C'est pas un sosie, quoi. Enfin, et moi, de toute façon, un de mes grands regrets, ça aurait été le James Bond que Danny Boyle n'aura pas fait, qui, à mon avis, aurait conclu l'ère Daniel Craig d'une bien meilleure manière que celui de Fukunaga. Mais bon, ça, c'est tant pis, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mais effectivement, c'est une idée géniale de Daniel Craig qui va chercher la reine, quoi. Enfin, et ils y arrivent et ça fonctionne. C'est vraiment un super spectacle. À noter juste, c'est Danny Boyle, quand je dis qu'il est, c'est un col bleu qui vient d'un milieu populaire, après la cérémonie, il a refusé d'être anobli par la reine. Voilà. Et ça ne fait que me le rendre encore plus sympathique. Le fait, même s'il y a des tas de gens que j'adore, hein, qui ont été anoblis, hein, comme Paul McCartney, mais le fait que Danny Boyle refuse d'être anobli et qu'il reste à son statut populaire me le rend encore plus sympathique et je l'aime encore un peu plus, l'assassin.
On est des fanboys, n'oublie pas.
Et
c'est vrai que si tu faisais la même cérémonie en France à l'époque, ça aurait été Christian Clavier qui serait venu chercher Sarkozy, tu vois, quoi. Enfin, ça aurait été.
Non, mais tu sais, quand Aurélien parlait de ça, j'écoutais, en fait, et je me dis, mais qu'est-ce que ça aurait pu faire en France? C'est quoi nos icônes et tout? Enfin, je me suis imaginé, tu vois, et en fait, ça aurait été. Enfin, ça aurait parlé à personne déjà, hein, ça aurait parlé à personne en dehors de la France.
Ouais, mais après, en vrai, que ça parle à personne, ça c'est pas grave, parce que c'est une cérémonie comme ça, elle est faite pour célébrer la culture du pays. En l'occurrence, c'est vrai que la culture anglaise, elle rayonne dans le monde. monde entier, parce que effectivement c'est une culture mondiale, mais en France il y aurait moyen de faire des tas de trucs super. On a des tas de trucs super en France. Si tu rends hommage à la musique française, bon, moi je suis pas fan de Johnny Hallyday, mais bon, il a fait des trucs quand même assez fous. Tu pourrais avoir Téléphone, tu pourrais avoir Louise Attaque, tu pourrais avoir la musique électro, Daft Punk, tout ça.
Mais on va savoir, parce que c'est l'année prochaine, en fait. C'est con, mais on va voir ce qu'ils font, en fait. Oui, on aura la preuve. Hein.
Alors, est-ce qu'on aura du Daft Punk sur débarque sur la scène? Je suis pas sûr, mais ouais.
C'était pour la Coupe du Monde, il y avait des sortes d'énormes statues qui marchaient dans Paris et tout. Ouais, des géants.
Des géants, ouais.
Ça, c'était impressionnant, mais balèque un peu, quand même. J'ai envie de dire, on s'en fout un peu, quoi.
Bah c'est de l'art contemporain, on va dire, et donc c'est moins évident. Vers là, les JO de Londres, c'est un spectacle de culture populaire, donc effectivement c'est et d'histoire, puisqu'il raconte l'histoire britannique. Donc c'est vrai que, enfin, franchement, tout le segment sur la révolution industrielle, il est dingue en termes de scénographie, en termes de musique. Tous ces tambours là qui jouent à l'unisson, il devait être 500 tambours qui jouent à l'unisson, c'est vraiment,
mais je me suis
c'est
demandé,
vraiment un super spectacle,
parce que la cérémonie de Zhang Yimou, justement, pour les JO de Pékin, ça commençait par encore plus de tambours. Et je me suis demandé si c'était pas... mais tu sais quoi, il y en avait 500, on va t'en mettre 5000. Si c'était pas une espèce de surenchère par rapport à ça. Ouais. Non, mais ce qui était terrible sur la Coupe du Monde de rugby, c'était ça, en fait. Ouais. C'était cette impossibilité de mettre quelque chose de moderne, quoi.
Moi, je l'ai pas vu, j'ai juste vu les photos, ouais. Et j'ai vu, comme tout le monde, l'homme poulet, et je me suis dit, ok... ok, Danny Bell toujours devant, il n'y a pas de problème.
Ben ouais. Oui, c'est quand même dommage de toujours raccrocher en fait l'identité française au passé, parce que l'identité française elle existe aujourd'hui. Enfin, peu qu'on veuille ou non, enfin, on est un pays qui existe avec une identité qui existe. On devrait célébrer en fait toute notre culture, la richesse de notre culture. Le problème c'est que si tu fais ça, voilà, tu en fait, t'as l'impression que, je sais pas, il faut toujours souvent tomber dans le béret baguette.
Ils auraient mis Jeff Panaclock, au moins tout le monde aurait été content, quoi. Ça aurait été.
Ouais, ça serait. Ah ouais. Je pense que ça aurait
pour l'an prochain, c'est noté. J'ai regardé en fait les réactions justement en Grande-Bretagne sur cette cérémonie. Il n'y a que les Tories en fait, les conservateurs. C'est des copains de Boris Johnson qui n'ont pas aimé.
Donc, c'est étonnant.
C'est des conneries de gauchistes.
Voilà. Ah, c'est étonnant.
Non, c'est de la merde de gauchistes. Ouais, voilà. Lefty.
C'est vrai, mais il est con.
C'est là que tu sais que c'est bien donc.
C'était vraiment ouvert à tout le monde. Il n'y avait pas de. C'était, j'allais dire pas à politique. C'est pas du tout à politique, mais c'était quand même assez ouvert. Et le voir comme un truc de gauchiste, c'est quand même stupide en fait. Enfin bref, Boris Johnson, tu vas me dire, mais bon.
Un immense merci à vous deux pour cette deuxième session qui
merci,
est restée correcte. Tout à fait.
Ce fut
mais
un plaisir.
Parce que vous êtes des gens très, très courtois et corrects, finalement.
Et merci à Discorda d'exister, hein, de faire toujours ces super podcasts très divers, très variés.
Bah
bravo François, ça fait combien d'années que tu fais ça? 4 ans
5 ans,
voire plus, non? 5 ans. Donc franchement, bravo, hein, tu lâches pas le morceau et tu fais toujours des trucs différents. Non, mais moi, pour avoir fait des podcasts, au bout d'un moment, ça saoule, on s'arrête. Toi, tu continues, c'est cool, et c'est toujours très varié. C'est ça qui est intéressant, c'est que même si un sujet ne te parlera pas, comme tu changes souvent, c'est intéressant. Tu as toujours à boire et à manger, tu as toujours un truc à écouter. C'est vraiment top.
C'est ce qui perd les gens aussi, je
bravo,
crois. Mais c'est gentil, merci beaucoup.
Ouais, mais dans la durée, c'est ce qui restera en fait. Voilà, quoi.
Bon, si ça vous plaît, j'en suis ravi. Aurélien, on a tellement espacé par rapport à la dernière fois qu'il y a un nouveau numéro de Cinématiseur.
La couve.
Ce journal auquel tu participes avec un film d'un petit jeune. Hein, un petit jeune qui a de l'avenir, qui n'en veut. Voilà.
Oui. Tout à fait, Martin Scorsese, c'est un jeune auteur.
Bientôt dans le MCU, on croise les doigts.
avec son nouveau film Killers of the Flower Moon. Alors, on n'a pas eu la chance de parler à Martin, mais on a parlé à David Gran, qui est donc l'auteur du bouquin qui inspire le film, et au chef opérateur Rodrigo Prieto. Et tout ce beau monde nous explique les enjeux du film, et c'est un superbe film. Donc, j'espère que
incroyable chef rap, Rodrigo Prieto.
Lecteur. Oui, tout à fait.
Et c'est ça qui est bien dans Cinématiseur, c'est que vous faites parler des gens dont on n'a pas l'habitude d'entendre la voix d'habitude. Et beaucoup de chef-op, et c'est toujours passionnant.
Merci.
Cyril, bientôt le pif, tu reviens de CGS, où tu as vu beaucoup de films. Voilà.
Ouais. J'espère en trouver des biens dans l'histoire, mais on vous dira quand la programmation sera balancée ce qu'on a vu de pas bien et qu'on n'a pas pris, mais que je ne peux pas encore dire pour le moment, mais voilà quoi. Mais ouais, c'était pas une grande année, CJ, cette année. Mais la plage était bien, par contre.
Oui, c'est toujours sympathique.
On a eu beau temps.
C'est toujours sympathique. Non, non, mais ça, ça se précise. La programmation, il y a quelques films qui se calent, voilà, et c'est des bons films. Hein.
Sachez, peut-être que vous ne savez pas, mais François fait partie de l'équipe de sélection du PIF, donc il voit les films, voilà.
Ah, je savais.
C'est même François qui écrit tous les textes du catalogue, donc François a vu tous les films avant que ce soit le festival arrive, parce qu'il est obligé de les voir pour écrire dessus, quoi.
Très bien. Eh bien, très hâte de connaître la liste des films. Chaque année, il y a toujours des films super cool, donc très hâte de savoir ce que vous avez concocté pour cette édition.
On s'est dit beaucoup trop de bien les uns des autres, faut arrêter là, faut garder de la rage pour le prochain.
De toute façon, vu tout le mal que tu as dit sur Slumdog Millionnaire, cette nuit, j'ai ma petite poupée François Coe, là, comme je viens, comme petite poupée vaudou, que je vais martyriser toute la nuit.
Donc, attends, ce que je vais dire sur Trainspotting 2 va.
Oh, papa, mon petit bonhomme, tu vas te calmer. Hein.
Chef-d'œuvre.
Oui, pareil.
Chef-d'œuvre, Trainspotting 2.
Non, mais je le reverrai, j'ai passé la quarantaine, donc. Encore.
Voilà, tu verras, ça te parlera.
Encore un immense merci à vous deux.
À ciao.
Merci François, à la prochaine.
Allez.